Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer, bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Donald Trump renonce à attaquer l'Iran. Opération secrète prévue ce mardi, annulée au dernier moment. Le président américain dit vouloir laisser une chance d'aboutir à un accord de paix au Moyen-Orient. Sidéré, sans voix, les mots de Flavie Flamand. L'animatrice dénonce la défense de Patrick Bruel, visé par au moins 12 plaintes en France pour agression sexuelle et viol. Le chanteur nie les faits. Et la souveraineté alimentaire au programme des députés. Le projet de loi d'urgence agricole débarque à l'Assemblée nationale et ça s'annonce tendu.
L'Iran épargné par Donald Trump ce matin.
Une opération jamais évoquée jusque-là, prévue ce mardi, et annulée à la dernière minute, selon le président américain, qui continue, Romain Hougue, de rester très menaçant envers Téhéran.
Oui, c'est une opération militaire d'ampleur, des bombardements qui devaient avoir lieu aujourd'hui même, assure Donald Trump, mais qui ont été annulés hier soir au dernier moment. Explication du président américain, écoutez.
L'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis me l'ont demandé. Ils sont venus vers moi et m'ont dit « On sait que vous prévoyez une attaque majeure contre l'Iran ce mardi. Mettez-la sur pause un petit moment, peut-être pour 2 ou 3 jours, parce qu'ils pensent qu'on est tout proche de conclure un accord. »
Alors Donald Trump parle d'une évolution très positive des discussions, mais rappelle que cet accord doit garantir que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire, sans quoi eh bien, les États-Unis se tiennent prêts à tout moment à lancer une attaque totale et à grande échelle contre l'Iran, prévient le président américain. Réponse immédiate du côté de Téhéran, elle vient du chef du commandement de l'armée. Les forces iraniennes ont le doigt sur la gâchette. Et le président iranien d'ajouter, dialoguer ne signifie pas capituler.
Aux États-Unis, une fusillade a fait 3 morts dans un centre islamique de San Diego en Californie. Les 2 tireurs présumés se seraient donné la mort. Leurs corps ont été retrouvés dans une voiture près des lieux du drame. Si leurs motivations sont toujours inconnues à cette heure, la piste d'une attaque islamophobe est privilégiée par les enquêteurs.
7h03 sur RMC, c'est un procès très attendu qui s'ouvre ce matin aux assises de Nantes.
Celui d'un pédocriminel allemand déjà condamné à la perpétuité dans son pays pour le meurtre de 3 garçons identifiés comme le meurtrier présumé de Jonathan, 10 ans, kidnappé en 2004 dans un centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins, retrouvé 1 mois plus tard, ligoté, lesté d'un parpaing au fond d'un étang de Guérande. 22 ans après l'horreur, la mère du garçon attend des réponses, elle espère des aveux, elle témoigne au micro d'RMC, vous l'entendrez dans le journal de 7h30. 12 plaintes au moins visent désormais Patrick Bruel en France, accusé d'agression sexuelle et de viol par plusieurs femmes. Le chanteur nie les faits, on vous en parlait hier, une défense qui laisse sans voix. Flavie Flamand, dans un entretien publié par Mediapart hier, l'animatrice s'exprime pour la première fois depuis sa plainte déposée pour viol commis il y a 35 ans lorsqu'elle était mineure. Constance Bostoen.
Sidéré, c'est le terme qu'utilise Flavie Flamand face à la ligne de défense de Patrick Bruel. Au micro de Mediapart, elle assure formellement n'avoir jamais entretenu de relation avec lui, contrairement à ce qu'affirment les avocats du chanteur. Elle revient aussi sur la soirée des faits présumés. En 1991, alors âgée de 16 ans, elle se rend au domicile de la star. Elle dit accepter un thé. Ensuite, c'est le blackout jusqu'à son réveil.
On est sur son lit et il est en train de me remettre mon pantalon. Et ma pensée est extrêmement puissante. Enfin, elle est d'une vivacité effarante. Et je vois encore sa chevelure et ses boucles brunes. Je ne comprends absolument rien de ce qui m'est arrivé à ce moment-là. J'ai ce sentiment au fond de moi, à ce moment-là, je suis un objet. Mon corps ne répond pas. Et en fait, il fait son œuvre.
Le chanteur, qui fait face aujourd'hui à plus d'une dizaine de plaintes déposées en France et en Belgique, assure de son côté qu'il a confiance en la justice et qu'il se battra devant elle pour défendre la vérité.
Et parmi ces plaintes, celle d'Ophélie Fachefer, classée sans suite en 2022. L'enquête a été réouverte par le parquet de Nanterre. L'avocate de la plaignante sera votre invitée, Apolline, ce matin à 7h40 sur RMC. Durcir la répression des free parties jusqu'à la prison. Mesure votée par le Sénat cette nuit dans le cadre de l'examen de la loi Riposte visant à lutter contre les violences du quotidien. À l'Assemblée nationale, les débats s'annoncent houleux. Les députés se penchent à partir d'aujourd'hui et pour 4 jours sur la loi d'urgence agricole. Réponse à la colère des agriculteurs. Sébastien Lecornu avait promis un texte avant l'été. Pas sûr, Sonia Gobry, que le Premier ministre puisse tenir sa parole tant les sujets de division semblent nombreux.
Au cœur des crispations, les questions de l'élevage et de l'eau. La gauche accuse le gouvernement de lever tous les garde-fous pour favoriser la création de fermes-usines et de méga-bassines. Insoumis et écologistes promettent de batailler contre ce qu'ils qualifient d'offensive contre l'écologie. À l'autre bout de l'hémicycle, le RN veut réintroduire l'acétamipride, cet insecticide dit tueur d'abeilles qui a été censuré par le Conseil constitutionnel au moment de la loi du plomb. Sébastien Lecornu cherche donc à éviter ce débat brûlant. Il propose de traiter la question des pesticides plus tard, pour, dit-il, ne pas prendre en otage l'ensemble du projet de loi d'urgence agricole. Les oppositions y voient une ruse et soupçonnent l'exécutif de vouloir écarter les sujets qui fâchent à l'Assemblée pour laisser ensuite la main au Sénat plus favorable et moins divisé sur ce texte.
Et on revient largement sur ce texte juste après votre journal, justement. Et j'attends aussi vos témoignages, parce que cette loi agricole, pour tenter de faciliter notamment l'arrivée d'un certain nombre de méga poulaillers ou des gros élevages. Vous êtes peut-être agriculteur ou alors vous êtes riverain de ces agriculteurs. Venez nous dire si vous avez besoin de cette loi.
Les relations entre Paris et Alger se réchauffent. C'est le constat de Gérald Darmanin, reçu par le président algérien hier, occasion pour le garde des Sceaux d'aborder la reprise de la coopération judiciaire entre les deux pays, contre le narco-banditisme notamment, et d'évoquer le cas du journaliste Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison en Algérie.
On sait d'où partira le Tour de France 2028.
Oui, 2028, après Barcelone cette année, après Édimbourg. L'année prochaine, retour en France. Maria Azé, ce sera du côté de Reims.
Oui, un grand départ depuis la mythique cathédrale de Reims. Avant 4 étapes dans le Grand Est, la ville du Champagne était en concurrence avec le Luxembourg. Mais Christian Prudhomme, le patron du Tour, tient à partir de France au moins tous les 3 ans.
Non seulement j'assume et je revendique les grands départs à l'étranger, mais il faut naturellement des grands départs régulièrement en France. Il nous faut une ville qui rayonne dans le monde. Le choix s'est porté sur la région Grand Est, sur Reims, avec 4 étapes où tous les types de coureurs pourront s'exprimer, avec là encore un parfum de patrimoine mondial de l'humanité.
Pour la ville de Reims et la région, le grand départ devrait coûter près de 4 millions d'euros, mais les élus estiment les retombées à plus de 15 millions d'euros. En plus de sa célébrité pour sa cathédrale et son champagne, la Cité des Sacres a aussi été choisie pour sa flexibilité. Le Tour de France 2028 partira une semaine plus tôt, le 24 juin, et se terminera à Paris le 16 juillet, 2 jours après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Los Angeles, pour permettre aux coureurs de partir pour les États-Unis et disputer la course en ligne le 23 juillet.
Et en attendant, le Tour de France 2026 sera à vivre sur RMC dès le 4 juillet. 41 points, 24 rebonds, la grosse performance de Victor Wembanyama cette nuit en NBA. Le basketteur français permet aux Spurs de prendre l'avantage sur le parquet d'Oklahoma City au terme d'un match irrespirable marqué par 2 prolongations. San Antonio mène 1-0 dans l'entame de cette finale de Conférence Ouest. Et puis un mot de foot pour vous dire qu'Arsenal, vainqueur de Burnley hier soir 1-0, fait un pas de plus vers le titre en Angleterre 22 ans après son dernier sac. Les Gunners sont 5 points d'avance sur Manchester City. Les Citizens qui vivent la fin d'une ère, selon la presse anglaise, Pep Guardiola va quitter le club à l'issue de la saison après 10 ans sur le banc mancunien.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h09 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Installer des poulaillers géants et des retenues d'eau plus facilement, c'est l'un des objectifs du texte débattu à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bonjour Julien Dive.
Bonjour.
Vous êtes député LR de l'Aisne et vous êtes co-rapporteur de ce projet de loi. L'idée, c'est de défendre notre souveraineté alimentaire, de faciliter les installations. Voilà votre parti pris dans un instant. Et vous qui nous écoutez, appelez-nous, vous êtes peut-être agriculteur ou élu local ou tout simplement riverain de ces installations. Est-ce que vous considérez qu'il faut alléger les normes, faciliter les installations? Racontez-nous aussi votre expérience. On vous attend au 32-16.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Souvenez-vous, le gouvernement avait promis une loi pour répondre à la crise agricole. Cette loi, elle arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bonjour Julien Dive.
Bonjour.
Vous êtes député LR de l'Aisne, vous êtes co-rapporteur du projet de loi et pour vous, cette loi, elle va permettre de défendre notre souveraineté alimentaire. Je voudrais qu'on commence directement avec un exemple, les œufs. On en parle régulièrement ici. Il y a parfois de la tension, voire même des pénuries d'œufs dans les rayons. Et lorsque l'on se penche un peu sur la question, on voit qu'il est très difficile pour les agriculteurs de pouvoir monter des grands poulaillers, des grands hangars, que ça prend un temps fou, qu'ils doivent lever des normes. Est-ce que, par exemple, les œufs, ça va être solutionné par votre loi?
Les œufs, la viande de chair en poulailler sont prévus par ce projet de loi. C'est-à-dire l'idée, c'est de partir d'un constat. D'abord, on consomme 50% du poulet en France vient de l'importation et pas du poulet français. En restauration collective, bien sûr, on est plus davantage sur des poulets français, 80-85%.
Parce que la loi les y oblige.
Parce que la loi les y oblige. Mais en France, dans beaucoup de cas de figure, les Françaises et Français qui se rendent en restauration hors domicile, privée particulièrement, vont consommer du poulet qui est à moitié importé. Et c'est la même chose sur les œufs. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu cette souveraineté sur beaucoup de productions. Et à partir de ce moment-là, il faut identifier quels sont les écueils, en tout cas quels sont les leviers qu'il faut activer. Les leviers activés, c'est décorseter les règles. Les règles pour faciliter l'implantation de ces bâtiments d'élevage ou tout simplement les...
Aujourd'hui, il faut combien de temps pour pouvoir installer un poulailler géant ?
Aujourd'hui, vous avez une règle sur les bâtiments d'élevage, sur tout ce qui est bâtiments agricoles en réalité, qui sont soumis aux mêmes conditions qu'un bâtiment industriel, ce qu'on appelle les classements ICPE. Bâtiment industriel avec des conditions de stockage, des conditions de production qui peuvent être dangereuses, on rentre dans ce cadre-là. C'est pas normal que la production agricole soit dans ce cadre-là. On veut sortir et tout simplement se standardiser au niveau européen sur ces conditions d'accès. Donc on est sur plusieurs mois aujourd'hui. Parfois ça peut prendre des années. Il n'y a pas de moyenne précise, mais ça peut prendre des années. L'idée est de faciliter. On n'est pas en train de dire on ouvre tout. Il y aura toujours une enquête publique, il y aura toujours un avis, il y aura toujours un contrôle. Rien n'est pas l'idée de libéraliser à outrance, simplement décorseter pour faciliter les projets sur nos territoires.
Et je propose qu'on écoute tout de suite le témoignage de Julien qui nous appelle du Calvados. Bonjour Julien. Julien, vous êtes agriculteur et justement, il me semble que vous avez mis du temps à pouvoir agrandir votre exploitation. Vous faites quoi ? Vous avez une porcherie, c'est ça ?
Oui, alors j'ai deux productions principales. On a de l'élevage laitier, donc on a de la laitière, et on a aussi une production porcine. On a une porcherie aussi, oui, tout à fait.
Et comment ça s'est passé pour vous quand vous avez voulu agrandir ?
Alors, c'est pas terminé. Alors que je vous parle, j'ai encore un rendez-vous vendredi matin à la préfecture pour une dernière commission avec un projet d'arrêté de 87 pages.
Okay.
Un arrêté préfectoral de 87 pages, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, je sais même pas si le PR de Flamanville en a autant. Mais on est vraiment, ça fait 3 ans qu'on est sur le dossier et on nous demande des dossiers qui coûtent plus de 70, 80 000 euros à construire alors qu'on est un élevage familial pour construire une porcherie de, grosso modo, enfin, ça parlera à certains.
C'est-à-dire que là, c'est le coût de la démarche administrative. Vous ne parlez même pas du coût de construction.
On va avoir le droit de savoir si on va pouvoir poser une première pierre.
Et potentiellement, à la fin, c'est pour vous dire non. Donc, ce sera
à perte. Potentiellement, c'est pour nous dire non à la fin, oui, tout à fait. Ah ouais. Entre-temps, depuis 3 ans, il y a eu de l'inflation, les coûts des bâtiments ont monté. Donc, finalement, c'est des projets qui mettent qui demandent une énergie pour les sortir de terre, une énergie folle, alors qu'on reste sur des tailles d'élevage qui sont familiales. On dépasse un petit peu la moyenne parce qu'on a fait le choix de s'associer. Tout ça pourquoi ? Pour pouvoir prendre des vacances, pour pouvoir partir un week-end sur trois.
Pour être deux familles, quoi.
Pour simplement avoir une vie sociale, quoi. Tout simplement, pas plus, hein. On ne demande pas à avoir une fermeture.
Mais pour qu'il y en ait qui puissent prendre le relais, quoi.
Exactement. Mais pour ça, on met un temps fou à faire des démarches administratives, quoi.
Je voudrais que le député puisse vous répondre. Julien Diff, qu'est-ce que vous pouvez dire à Julien, l'éleveur ?
On a besoin de ce texte pour tout simplement faciliter les procédures. Alors pour Julien, c'est trop tard puisqu'il est rentré dans le dispositif, dans le principe de déclaration ICPE. Mais demain, pour les nouveaux projets,
il n'y aura plus ces déclarations-là.
Il y aura toujours une déclaration qui sera un régime spécial qui va être créé par la loi, qui sera un régime qui sera facilité, qui sera toujours contrôlé, mais qui permettra de se standardiser au niveau européen. J'insiste là-dessus, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on importe des denrées qui viennent en dehors de l'Union européenne, avec des standards qui sont beaucoup plus souples, avec des utilisations et des modes d'élevage qu'on refuse en Europe, qu'on refuse en France. On rajoute la couche européenne et on rajoute la couche française. Et en fait, on voit bien que notre production agricole, que ce soit en élevage, mais que ce soit aussi en production végétale, est en situation de distorsion.
En fait, là, on est effectivement au cœur d'une problématique très française et qui ne concerne pas que vous, mais on l'a vu aussi avec la loi, par exemple, de programmation militaire, où on s'est retrouvé avec une loi qui crée une sorte d'état d'urgence pour pouvoir lever les normes environnementales, les demandes à tout un tas d'organismes administratifs pour pouvoir ne serait-ce que monter un hangar dans lequel mettre des munitions. Est-ce que vous vous retrouvez pas aujourd'hui, finalement, à avoir une France qui s'est, pendant très longtemps, tiré une balle dans le pied en étant plus zélé que ses propres voisins.
Qui est peut-être zélé, mais qui a aussi donné des leçons aux États voisins, qui a voulu faire de la loi, qui a voulu surnormer, qui a voulu rapporter des couches législatives dans des filières. Et là, on parle d'agriculture, c'est un sujet sensible. L'agriculture, c'est notre alimentation, c'est une question de souveraineté. Je rappelle juste que pour la première fois en 2025, on a importé plus que ce qu'on a produit. C'est quand même un truc de fou dans un pays comme la France, qui est quand même une puissance agricole.
Qui jusqu'à présent était une puissance agricole exportatrice.
Si on veut éviter, et avec notamment des traités de libre-échange qu'on a tous refusés, mais qui ont été quand même actés au niveau européen, je pense au Mercosur, si on veut pas des denrées alimentaires qui viennent d'ailleurs dans des conditions qu'on se refuse, il faut savoir se mettre au niveau européen. Je suis désolé, mais ça paraît juste du bon sens.
Il y a moins de normes, mais ça veut aussi dire, dans ce cas-là, un peu moins de protection. Je voudrais prendre l'exemple de l'acétamipride, qui est donc surnommé l'insecticide tueur d'abeilles. Il est interdit en France. Il devait être rétabli, ou possiblement rétabli dans certaines conditions, par la loi Duplomb, mais ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Dans le même temps, on importe en France et on consomme, nous, tous les jours, des produits dans lesquels il y a de l'acétamipride parce que nos voisins n'appliquent pas cela. Comment est-ce que vous expliquez ça? Et est-ce que vous, vous voulez malgré tout maintenir l'interdiction de l'acétamipride en France?
Non, du tout. Moi, je veux qu'on ait un niveau qui soit celui de nos pays voisins. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en France, sur 27 pays, un seul a interdit l'acétamipride, c'est la France. Sur des coûts politiques, j'insiste là-dessus, les agences de santé européennes, l'EFSA, l'ont autorisé partout en Europe. Il n'y a que la France qui a dit non, nous, on va laver plus blanc que blanc. Quand je dis nous, on va laver plus blanc que blanc, c'était en 2016, hein, c'était la loi Pompili. Vous voyez quand ça remonte quand même. Il y a eu quelques dommages collatéraux depuis pour la filière. Si c'était interdit par l'agence européenne, il n'y a pas de souci, ce serait interdit en France aussi. Mais la France est le seul à avoir remis une couche. Alors tous les jours on importe, on a des doses totalement exagérées.
Est-ce qu'un jour on se dira pas, au fond, on a été effectivement plus prudent et on a bien fait par rapport à nos voisins?
Puis on peut toujours faire le coq et puis dire qu'on est plus malin que la bande européenne. Ça c'est quelque chose qui permettra peut-être à certains de se satisfaire d'avoir interdit, ou au contraire, on pourra pleurer de voir notre agriculture qui a disparu parce qu'on s'est mis des bâtons dans les roues.
Vous redoutez pas une bataille comme il y a eu pour la loi Duplomb?
Bon, les sujets les plus éruptifs ne sont pas dans le texte. C'est ce que je regrette. Le Premier ministre n'a pas eu le courage d'aborder cette question de la cinématrie, par exemple. Mais je trouve que les débats qu'il y a eu en commission ont été de bonne facture. Bien sûr, il y a des désaccords. Bien sûr, il y a des moments un peu plus bouillants. Il y a des moments de débats fort en commission, et il y aura des débats forts dans l'hémicycle, mais je suis plus serein, ou en tout cas je suis plus confiant sur la responsabilité de chacune et de chacun.
Merci beaucoup Julien Dive. Julien, l'agriculteur dans le Calvados, oui. Vous disiez que vous aviez encore une dernière réunion vendredi à la préfecture. Est-ce que oui. Vous avez bon espoir de pouvoir moderniser, agrandir votre exploitation familiale?
Oui, j'ai bon espoir parce qu'on s'entend bien avec nos voisins, le dossier d'enquête publique s'est très bien déroulé, tout. Ben voilà, c'est pas parce qu'on les ferme, on grandit, et depuis 60 ans, elles ont fait que grandir, les fermes, c'est l'histoire de l'agriculture française, mais c'est pas parce que nos fermes ont grandi qu'on s'entend mal avec nos voisins, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais on essaye de vraiment faire ça, de faire les choses bien, et simplement, on veut pouvoir faire notre métier.
Rappelez-nous la semaine prochaine, Julien, dites-nous comment ça s'est passé, et tenez-nous au courant. Merci en tout cas pour votre témoignage ce matin. Il est 7h21, dans un instant, on va remonter le temps avec l'historien Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, vous l'entendez? God Save the Queen, le Royaume-Uni, de retour peut-être de King dans l'Union Européenne. On se pose la question à Londres.
Et oui, puisqu'en fait, entre le Royaume-Uni et l'Europe, ça a toujours été un je t'aime moi non plus. Et figurez-vous, Apolline, que pendant très longtemps, c'est la France qui ne voulait pas de l'Angleterre dans l'Union Européenne.
Vous nous le racontez dans un instant, il y a aussi Arnaud Demanche qui arrive. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure de remonter le temps, comme chaque jour, avec Arthur Chevalier. Il est 7h23 et on va parler de l'Angleterre. Et si le Royaume-Uni revenait dans l'Union Européenne? C'est une idée très sérieuse qui a été proposée ce week-end par un potentiel futur Premier ministre anglais.
Et oui, cet homme, il s'appelle Wes Streeting. C'est l'ancien ministre de la Santé du gouvernement travailliste qui dirige actuellement l'Angleterre. Il a démissionné la semaine dernière avec une idée derrière la tête. Ce qu'il veut, c'est prendre la place de l'actuel Premier ministre qui s'appelle Keir Starmer. Il est fragilisé par des défaites électorales. C'est donc cet ancien ministre de la Santé qui a mis le feu aux poudres en déclarant que l'avenir du Royaume-Uni serait un jour dans l'Union Européenne. Il a même ajouté que le Brexit était, je cite, une erreur catastrophique.
Un retour des Anglais dans l'Union Européenne, ce serait quand même un retournement spectaculaire.
Ouais, enfin, ça serait quand même pas le premier non plus, hein, puisque les Anglais ont toujours eu un rapport très compliqué avec l'Union Européenne, ils ont toujours voulu en faire partie, et en même temps, ils ont passé leur temps à s'en plaindre. Bref, c'est un je t'aime moi non plus perpétuel.
Pourtant, alors au tout début, c'est la France qui ne voulait pas de l'Angleterre dans l'Europe.
Exactement, à l'époque, c'était pas encore l'Union Européenne, hein, ça s'appelait la CEE, la Communauté Économique Européenne, c'était l'ancêtre de l'Union Européenne. L'Angleterre voulait en faire partie, sauf que il y en a un qui ne voulait pas en entendre parler, c'était le général de Gaulle. Nous sommes en 1963, de Gaulle est président, il donne une conférence de presse très solennelle et là, coup de tonnerre, sans avoir prévenu personne, aucun de ses partenaires, il met un veto à l'entrée de l'Angleterre dans la communauté européenne.
Mais pourquoi ?
Écoutez, en gros, il trouvait que c'était une très mauvaise idée, hein, que la structure de l'Angleterre était, je cite De Gaulle, très originale, qu'elle différait trop de celle des continentaux. Alors évidemment, ça avait provoqué un tollé à Londres, hein, où la presse s'était déchaînée contre la France, mais De Gaulle est resté droit dans ses baskets. Ça sera non à l'Angleterre, jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir en 1970. De Gaulle parti, l'Angleterre finit par adhérer à la communauté économique européenne en 1973.
Vous croyez qu'il avait des baskets, De Gaulle ?
Il avait des bottes, mais pour la chronique,
voilà,
c'est mieux les baskets.
Voilà, je suis un petit peu sur les baskets. Bon, alors ça va vite quand même poser des problèmes.
Eh oui, comme prévu, à la fin des années 1970, la première ministre britannique, c'est l'inflexible Margaret Thatcher. Elle entre en guerre contre l'Europe, puisqu'elle trouvait que l'Angleterre contribuait beaucoup trop au budget européen par rapport à ce que ça lui rapportait. Elle avait d'ailleurs prononcé une phrase restée très célèbre, « I want my money back », je veux récupérer mon argent, en français, un bras de fer contre les institutions européennes que la Première Ministre va remporter.
Donc en fait, les Anglais, ils veulent être dans l'Union Européenne, mais à leurs conditions.
Exactement, une Union Européenne à la carte, c'est ce qu'ils veulent les Anglais. Hein. D'ailleurs, en 1992, ils demandent encore un privilège en refusant d'adopter la future monnaie commune, ça sera l'euro. Là encore, on a cédé, on leur a permis de garder la livre sterling. Cette histoire, évidemment, s'est terminée par le fameux Brexit en 2020. Mais bon, rien de définitif, Apolline. Avec les Anglais, on peut s'attendre à tout.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Une chronique qu'on peut retrouver à tout moment en podcast sur l'appli RMC 7h26, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Vous voulez pas laisser le God Save the King ? C'était bien.
C'est beau, c'est vrai que c'est chic. Pour votre arrivée.
Pour mon arrivée, ça va être la.
Le roi de Manche est avec nous. À 8h30 tout à l'heure, mon invité, ce sera Laurent Nunez.
Oui, Laurent Nunez qui a lancé un plan de bataille contre le narcotrafic, les violences urbaines et les crypto-raptes. On dirait un sommaire de Bernard de la Villardière pour enquête exclusive. Narcotrafic, violences urbaines et crypto-raptes. Bienvenue à. Attendez les gars, coupez. Je trouve que ça manque de prostituées, non ? Allez, on reprend. Narcotrafic, violences urbaines, prostitution, club échangiste, crypto-rapt, poppers et escort girl. C'est le combat de Laurent Nunez. Peut-être qu'on devrait enlever narcotrafic. Non, c'est angoissant pour les gens. On va rajouter salon de massage et slip en cuir. C'est le combat de Laurent Nunez. Laurent Nunez qui reconnaît que la France est un peu l'épicentre des rapts liés à la crypto. Un peu. Mais sois pas modeste, Laurent. Allez, pour une fois qu'on est bon dans quelque chose, faut pas minimiser, quoi. On est les premiers. On est les premiers. Et un. Et deux. Et trois. Crypto-rapt. Colombie. Vanique. Bon, bah, ouais. Laurent Nunez promet un dispositif de sécurité exceptionnel, Apolline. Exceptionnel. Pour éviter les débordements lors de la finale de la Ligue des Champions. Oui, parce que si Paris perd, toutes les vitrines des Champs-Élysées seront cassées par dépit. Par contre, si Paris gagne, toutes les vitrines vont être détruites dans la joie et la bonne humeur.
Bref, tout.
Yann Arthus Bertrand, c'est pas le moment de refaire une expo. Hein. Sinon, vous allez voir ce que vont lui faire les supporters parisiens. Là, Mathieu Béliard et Charles Magnin, ils s'entraînent chez eux à shooter dans des exemplaires de la Terre vue du ciel. Ils sont déjà en train de répéter. Bam, bam. Je suis sûr d'ailleurs qu'on va retrouver Kylian Mbappé sur les champs en train de foutre des coups de barre de fer dans l'ambassade du Qatar. Enfoiré de millionnaire. C'est facile de gagner la Coupe d'Europe quand on a de la thune. Et alors, Laurent Nunez défend aussi sa loi riposte. Aujourd'hui à le Sénat, il va parler aux sénateurs de rave parties, de protoxyde d'azote et de rodéo urbain. Va falloir être pédagogue. Hein. Cher sénateur, bonjour. Alors, nous devons lutter contre les nouvelles drogues. Bon, alors, le GHB, vous connaissez déjà, hein, je ne vous apprends rien. Viagra, c'est pareil, je ne vous fais pas le topo. Par contre, le protoxyde d'azote, c'est un vrai danger. C'est pourquoi je vais vous faire passer des bonbonnes, que tout le monde se rende compte de quoi on parle. Attention, monsieur le sénateur, c'est à vous.
Je suis hilaire, pour un sénateur.
Et après, on va retrouver Gérard Larcher en quad.
Oh, vous exagérez, ça va pas si vite.
Non, mais si, d'habitude, je comprends pas. Levez-vous pour voir. Ah oui, c'était ça. Allez, rendez-vous avec Laurent Nunez à 8h30. À tout à l'heure.
Et avec vous à 8h15. Il est 7h29, on se retrouve dans un instant pour la météo du journal. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. 22 ans jour pour jour après la découverte du corps de Jonathan, un Allemand devant la justice française, suspecté d'avoir enlevé, tué, puis jeté dans un étang le petit garçon de 10 ans. Une exclue RMC ce matin. Un tiers des motards roulent trop vite et la plupart assument de ne pas respecter les limitations de vitesse, vous l'entendrez. Et puis les fans de foot brésilien en ébullition hier soir. Neymar officiellement sélectionné pour la Coupe du Monde.
Pour la première fois, les parents du petit Jonathan vont faire face au meurtrier présumé de leur fils.
Un Allemand de 55 ans dont le procès s'ouvre aujourd'hui à Nantes. En 2004, le garçon de 10 ans est enlevé dans un centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins. Un mois plus tard, son corps est retrouvé, ligoté, lesté d'un poids au fond d'un étang. Ses parents attendent enfin des réponses. Vous les avez rencontrés pour RMC, Martin Lange.
Main dans la main, Stéphane et Virginie, les parents de Jonathan, découvrent le palais de justice de Nantes.
C'est ce qu'on attend depuis 22 ans, un procès. J'ai beaucoup de questions sans réponse et j'aimerais bien les avoir. Pourquoi mon fils ? Pourquoi lui ? Moi, j'attends qu'il avoue. C'est tout, je veux ça. Pour avancer, j'ai besoin de ça.
C'est la toute première fois qu'ils feront face à l'accusé Martin Ney, 55 ans, déjà condamné pour le meurtre de 3 enfants en Allemagne.
De savoir qu'il n'est pas loin, ben, ça me fait bizarre. J'ai envie de le voir, j'ai envie de lui parler, mais... je sais pas si j'y arriverai.
Martin Ney n'a jamais avoué son implication, mais il s'est livré à son codétenu qui témoignera lors du procès. Des témoignages qui seront déterminants, selon Catherine Salsac, l'avocate de la famille.
Vous n'avez pas de traces matérielles, vous n'avez pas de traces d'ADN, vous n'avez pas d'aveu. Le seul élément qui nous permettrait aujourd'hui d'obtenir une condamnation, ce sont les témoignages. Et le mode opératoire qui est quand même, je dirais, assez troublant.
Ligoter et lester sa victime, une signature criminelle selon les parties civiles qui auront 3 semaines pour convaincre les jurés. Contacter l'avocate de Martin Ney ne souhaite pas s'exprimer.
Martin Lange pour RMC. À Nice, 3 personnes ont été mises en examen hier, parmi elles l'auteur présumé des tirs lors d'une fusillade qui a fait 2 morts et 6 blessés dans le quartier des Moulins sur fond de trafic de drogue. Le début de l'heure de vérité pour le projet de loi d'urgence agricole censé répondre à la colère du monde paysan. Il est examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale et contient notamment des mesures pour réautoriser certains pesticides. Les pesticides, justement, au cœur d'une alerte de l'ONG Foodwatch. Ce matin, sur 15 produits testés, 12 contiennent des produits interdits dans l'Union européenne, des traces que l'on trouve chez tous les distributeurs, Lionel Dian.
Du riz, basmati, thaï ou long grain, des épices comme le cumin, le curry ou le paprika ou enfin des thés verts, des produits de grande marque que l'on retrouve chez tous les distributeurs et qui contiennent des traces de plusieurs pesticides, parfois jusqu'à 18 différents dans un seul produit, comme un des paprikas testés. La plupart de ces pesticides sont interdits d'utilisation dans l'agriculture française, mais pas à l'exportation. Et c'est comme ça qu'on les retrouve dans nos assiettes, comme l'explique Camille Doriot, directeur des campagnes de Foodwatch France.
Il y a des entreprises en France qui fabriquent des pesticides qui ne sont pas autorisés et qui les exportent pour les envoyer dans des pays où ils sont utilisés pour produire notre alimentation. Et après, on réimporte l'alimentation qui est contaminée par ces pesticides qu'on avait nous-mêmes interdits.
Deux de ces produits, un lot de paprika et un autre de ritaille, dépassent même les normes de dangerosité autorisées par l'Union européenne. Foodwatch demande leur retrait immédiat des rayons, mais elle va plus loin en réclamant la tolérance zéro pour tous les produits contenant des pesticides prohibés.
Autre texte, le projet de loi riposte sur le bureau cette fois des sénateurs depuis hier. Ils ont adopté de nouvelles sanctions contre les free parties. 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour les organisateurs. Jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende pour les participants. Est-ce un geste d'apaisement ou un coup de pression ? Donald Trump dit avoir reporté, annulé au dernier moment des frappes d'ampleur sur l'Iran. Elles devaient avoir lieu ce matin, selon le président américain, pour qui un accord a de très bonnes chances d'aboutir. Il est 7h35 sur RMC et c'est un chiffre que l'on vous révèle ce matin. Un motard sur trois ne respecte pas les limitations de vitesse. C'est le résultat d'une étude BPCE, l'Observatoire, confirmée par les conducteurs eux-mêmes que vous avez interrogés, Lucas Laubert.
40 ans que Corinne et Alain font tout leur trajet à moto. La bécane, comme ils l'appellent, pour eux, c'est...
la liberté.
Des libertés, Corinne l'avoue, elle en prend aussi parfois avec les limitations de vitesse.
Bah oui, faut se faire plaisir un petit peu aussi.
Ça fait partie de la moto aussi, un petit peu quand même.
Oui. Bah sinon, on est toujours 50, 70, 80, on n'avance plus.
Chez les 18-24 ans, près d'1 motard sur 2 roule trop vite.
J'ai pas de limite, je roule comme un fou.
Benjamin admet qu'il dépasse largement les limitations et comme 15% des conducteurs, il reconnaît même accélérer dans les courbes pour plus de sensations.
Il y a du plaisir à rouler comme ça. L'adrénaline, c'est grisant et c'est des fois on fait la course. C'est au plus vaillant, comme on dit, au plus courageux, au plus fou. C'est ce qu'on aime.
Un comportement que déplore Mehdi Dahan, moniteur d'auto-école. Oui, la moto peut être associée au plaisir, mais pas au péril de sa vie, selon lui.
Le respect de la limitation de vitesse passe en second. Il faut trouver des activités parallèles où on va pouvoir prendre des risques, mais avec un aspect sécuritaire important. Éventuellement, même la moto sur circuit.
Le moniteur le rappelle à tous ses élèves. Sur la route, la vitesse est la première cause d'accident.
Et puis ces scènes de liesse hier au Brésil. Non, la Seleção n'a pas encore, en tout cas, remporté la Coupe du Monde de foot. Mais elle a annoncé sa liste pour la compétition, Julien Richard. Et c'est la présence officielle de Neymar qui a enflammé tout le monde.
Oui, on est loin de Didier Deschamps dans le journal de 20h. Une scène immense dans un musée de Rio. 1200 invités, 700 journalistes et tout un pays qui s'arrête pour écouter Carlo Ancelotti égrener les noms des sélectionnés et mettre fin au suspense.
Neymar Junior Santos.
La salle explose de joie, des chants à la gloire du meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne oblige même Carlo Ancelotti à stopper son annonce pendant de longues secondes. Plus de 3 ans que l'ancien numéro 10 du PSG n'avait plus été appelé en équipe nationale. La faute notamment à une cascade de blessures ces derniers mois. Il joue de nouveau, sa condition physique s'est améliorée, a justifié l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain qui avance également son expérience. Ce sera un joueur important pour cette Coupe du Monde. Un joueur important mais plus avec le même statut. Je veux être clair et honnête, il jouera s'il mérite de jouer, le terrain va décider. Neymar a le même rôle que les autres, aider la Seleção à gagner la Coupe du Monde. Je ne veux pas de stars, juste des joueurs présents pour aider l'équipe. À 34 ans, Neymar en tout cas réussit son pari et disputera sa 4e Coupe du Monde.
Et RMC, radio officielle de la Coupe du Monde, tous les 104 matchs commentés sur notre antenne ainsi que sur la radio digitale sur l'appli RMC.
Et puis le quintet, c'est à Chantilly aujourd'hui.
Départ 13h55, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Sa favorite, le numéro 7, Sospo. L'outsider, c'est le numéro 5, Sea You King.
C'était le journal de Victor Pochet. Et c'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter l'un des packs cadeaux Coupe du Monde. Vous le savez, on vous offre des vidéoprojecteurs, des écrans, des barres de son, des maillots, des bleus, des baby-foot. Il faut pour cela que vous deveniez sélectionneur. Sélectionneur, vous allez sélectionner un joueur dans la liste des 26 et il y aura un cadeau correspondant. Pour vous inscrire, vous envoyez tout de suite liste au 7-32-16. Liste au 7-32-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire et on sera en direct avec un des gagnants qui deviendra sélectionneur avec nous sur RMC. Ce sera à 8h20. Bonne chance à tous. Et on part au 32-16. Retrouvez Pascal qui nous appelle de Vendée. Bonjour Pascal.
Bonjour Apolline.
Comment ça va? Vous êtes agriculteur bovin. Vous avez entendu tout à l'heure le député rapporteur de la loi qui sera examinée à partir d'aujourd'hui. Une loi qui devrait lever les contraintes, faciliter l'installation notamment des élevages. Comment est-ce que vous réagissez, vous, Pascal?
Ok, bah, je pense que la possibilité de diminuer la contrainte vis-à-vis du temps pour mettre le bâtiment en place, je pense que c'est important. On peut sûrement la simplifier, mais elle est nécessaire. S'il n'y avait pas de loi sur la mise en place, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui soient faites de façon n'importe comment. Mais
donc
le principal dans tout ça...
Il faut une organisation, il faut un cadre.
Oui, tout à fait. Pour protéger le consommateur, pour protéger l'environnement.
Bon,
par contre, le gros problème de tout ça, c'est qu'il faut que ce projet, lorsqu'il soit mis en place, il soit durable et que l'agriculteur en vive de façon correcte. Parce qu'on peut perdre du temps pour mettre en place un projet. Si ce projet il est durable, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais sauf que ce qui se passe, c'est que notamment, on parlait des œufs, si on met en place des bâtiments en volaille et que l'agriculteur, par le biais du marché, ne gagne plus sa vie, les bâtiments, il n'y en aura pas de nouveau, de fait. Et on n'aura pas de renouvellement des générations.
En fait,
si on ne veut pas penser à ça, on va avoir un gros problème.
Tout dépend, pour vous, tout dépend quand même de la viabilité de l'agriculture en France.
Ah, je suis d'accord avec vous.
Vous êtes fils d'agriculteur vous-même, Pascal, ou...
Ah oui, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, génération, oui.
Et vous avez repris l'exploitation familiale?
Oui.
Est-ce que vous savez si derrière vous, je ne sais pas si vous avez des enfants, Pascal, est-ce qu'ils s'engagent sur cette voie?
Non. Parce que, je vous dis, si, mais quoi ça, qu'on fasse, quoi qu'on dise, si le métier n'est plus attrayant et si on ne peut pas en vivre de façon correcte, comme le reste de la société, il n'y aura pas de renouvellement des générations.
Oui, donc la question de la loi n'y changera rien.
Non, Non, je suis honnête avec vous.
Vous n'avez jamais regretté, Pascal, de reprendre l'exploitation familiale?
Non, parce que moi, je me suis installé, vous savez, ça fait quelques années. Mais il y a des fois où c'est dur, mais on a toujours réussi à s'en sortir par des effets de gestion stricts, des prises de position, des changements d'orientation.
Ouais, être capable aussi de changer, mais c'est ce que nous disait Julien, par exemple, qui faisait plusieurs types d'élevage, qui voulait aussi se diversifier dans le porc, mais avec le chemin qui est long et difficile. Merci beaucoup, Pascal, pour votre témoignage depuis Beaulieu-sous-la-Roche, en Vendée. Pascal, qui est donc éleveur bovin. Il est 7h41 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
On est sur son lit et il est en train de me remettre mon pantalon. Et je vois encore sa chevelure et ses boucles brunes.
Vous l'entendez, c'est l'animatrice Flavie Flamand qui a pris la parole pour la première fois chez nos confrères de Mediapart hier. Elle a raconté le viol qu'elle dit avoir subi du chanteur Patrick Bruel alors qu'elle avait 16 ans. Myriam Guedj-Benayoun est avec nous, bonjour. Vous êtes avocate,
bonjour.
L'avocate d'une jeune femme qui dit avoir elle aussi été violée par Patrick Bruel en 2015 alors qu'elle avait 19 ans dans le sud de la France. L'enquête la concernant a été rouverte par le parquet de Nanterre. On vous écoute dans un instant, 7h42.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h44 et vous êtes bien sûr RMC et RMC Story. Au moins une dizaine de plaintes ont été déposées contre le chanteur Patrick Bruel. Et c'est le parquet de Nanterre qui a confirmé hier ce chiffre. Il a aussi annoncé la réouverture d'une enquête pour viol. Une plainte qui avait été classée sans suite il y a 4 ans. Bonjour maître Myriam Guedj-Benayoun. Merci d'être en direct sur RMC ce matin. Vous êtes avocate au barreau de Toulouse. Vous représentez Ophélie Fachefer, cette jeune compositrice, chanteuse qui avait rencontré Patrick Bruel en 2015. Et c'est sa plainte qui a donc été rouverte par le parquet de Nanterre. Vous nous l'avez annoncé hier, vous l'avez d'ailleurs annoncé à mon micro sur BFM TV hier. Cette réouverture de l'enquête, comment est-ce que votre cliente réagit à cette annonce?
Pour elle, c'est un soulagement que ce soit la justice qui décide de réouvrir sa plainte et l'enquête qui en a découlé, plutôt qu'elle soit obligée de saisir elle-même le juge d'instruction par le biais d'une plainte avec constitution de partie civile. Donc elle est extrêmement soulagée.
Elle est extrêmement soulagée. Patrick Bruel, lui, dément toute agression ou viol. Il avait d'ailleurs été confronté à votre cliente lorsque la plainte avait été examinée. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour votre cliente qui avait donc 19 ans? Quel est le récit qu'elle fait, elle?
Alors, ce jour-là, elle avait entretenu une relation, alors pas épistolaire, on dit plus épistolaire à notre époque, mais par message, entre elle et Patrick Bruel suite à une rencontre sur un clip des Enfoirés, pour demander des conseils artistiques et éventuellement qu'il l'aide à percer dans le milieu. Donc ça s'est déroulé sur plusieurs mois et ça s'est très très bien passé et c'était vraiment uniquement professionnel. Ensuite, ils se sont rencontrés en vrai chez Ojdir, une première fois et une deuxième fois au domicile de Monsieur Bruel. Il lui disait que ses enfants étaient présents et que ça serait bien qu'elle vienne pour poser sa voix sur le piano dont il disposait. Et malheureusement, cette fois-là, elle a découvert une autre personnalité, selon ses dires bien sûr, de Monsieur Bruel. Et c'est là qu'elle a été agressée sexuellement et violée.
Qu'est-ce que Patrick Bruel, lui, a fait comme récit de cette même journée lorsque il a été confronté à votre cliente au moment de la plainte?
Alors, tout d'abord, lors de son audition, quelques mois auparavant, il ne se souvenait pas tellement de ma cliente. Et donc, il niait l'ensemble des faits. Et ensuite, lors de la confrontation, il a été plus loquace et dit se souvenir de ma cliente. Effectivement, nous, on avait tous les échanges. Enfin, ma cliente était seule à l'époque. Elle n'était pas ni accompagnée, ni conseillée par une association.
Elle se retrouve à ce moment-là seule, en effet, face à Patrick Bruel et à son avocat, Maître Ingrain.
Oui, voilà. Je trouve que cette confrontation est complètement inéquitable et scandaleuse. Même si d'aventure elle aurait dit qu'elle n'avait pas besoin d'avocat, cette confrontation a eu lieu dans des locaux judiciaires, policiers d'une brigade importante à Paris, ils auraient pas dû. Ils auraient dû lui imposer la présence d'un avocat, lui conseiller fortement, ou ne pas dû continuer la confrontation parce que c'est un déséquilibre certain.
Qu'est-ce qu'il raconte à ce moment-là? Qu'est-ce que lui raconte? Est-ce qu'à ce moment-là, il se souvient de votre cliente? Est-ce qu'il dit malgré tout qu'il y a eu une relation sexuelle consentie? Qu'est-ce qu'il dit?
Alors, il nie la relation sexuelle. Il dit qu'il a tenté un baiser, comme elle l'a repoussé. Il s'est arrêté. En fait, il dit ce qu'il dit aujourd'hui pour toutes les plaintes à son encontre, hein, que voilà, il a tenté de séduire, qu'il est séducteur, mais qu'à partir du moment où la personne lui dit non, il s'arrête.
Je voudrais que vous écoutiez les mots de Flavie Flamand. Elle a pris la parole pour la première fois hier chez nos confrères de Mediapart. Elle raconte le viol qu'elle dit avoir subi.
On est sur son lit et il est en train de me remettre mon pantalon. Et je vois encore sa chevelure et ses boucles brunes. Je ne comprends absolument rien de ce qui m'est arrivé à ce moment-là. J'ai ce sentiment au fond de moi, à ce moment-là, je suis un objet. Mon corps ne répond pas. Et en fait, il fait son œuvre.
Maître, comment est-ce que cette multiplication de témoignages, et en particulier celui de Flavie Flamand, fait réagir votre cliente plusieurs années après?
Alors, déjà, elle a eu comme un raisonnement quand Flavie Flamand dit « il fait son œuvre », c'est exactement le sentiment qu'a eu ma cliente, qui pourtant, elle, ne dit pas avoir été droguée, mais c'était vraiment ça, en fait, il fallait qu'il ait une relation sexuelle avec elle, et il l'a eue, voilà, sous la contrainte, sous la force et sous la violence. Ensuite, ma cliente est extrêmement reconnaissante envers Flavie Flamand, qui le dit hein, dans cette interview, elle sait ce qu'elle va subir maintenant, entre guillemets, suite aux déclarations qu'elle a faites. Elle fait ses déclarations pour elle-même, bien sûr, mais aussi et surtout, je pense, pour soutenir les victimes et porter leur voix. Et ma cliente, lui, est extrêmement reconnaissante.
Merci beaucoup, maître Myriam Gedge Benayoun, d'avoir réagi en direct ce matin sur RMC. Je rappelle donc que vous êtes l'avocate d'Ophélie Fachefer, qui donc accuse Patrick Bruel de viol en 2015. Sa plainte a été réouverte, elle sera examinée par le parquet de Nanterre. Il est 7h50 sur RMC, la voix de gauche vient de rentrer dans ce studio comme tous les mardis. Cécile Duflot, bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile, qu'est-ce qui est rond, blanc, coûte pas cher et sauve des vies?
Je sais, j'ai la réponse, c'est le détecteur de fumée. Et il a un peu plus de 10 ans maintenant, et il faut absolument s'en occuper.
Vous nous le rappelez dans un instant, il est 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, mais d'abord le bonus, Mathieu. Michael Jackson qui fascine toujours.
Le biopic Michael continue d'attirer le public, promet des records au box-office, mais certains ont pris goût au tube et au look de Michael Jackson. Ils vont être gâtés. Il y a une vente aux enchères qui doit se tenir le 3 juin à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne. Une vente d'objets de scène, d'objets personnels, avis aux fans et aux collectionneurs, aux plus fortunés en tout cas. Mocassin noir, entre 6 et 9 000 euros. Veste ou gants à paillettes. Le pantalon de Billie Jean, tiens, avec le trait blanc sur le côté, 8 000 euros. C'est la collection d'un passionné qui voulait ouvrir un musée, qui s'est dit, c'est encore un petit billet à faire. Finalement, la vente, la collection totale est estimée entre 500 000 et 1 million d'euros. Des vestiges, des accessoires de tournée, des tournées de Bad, Dangerous, d'Historique, qui devraient trouver preneur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un exemple très récent. À Nîmes, l'été dernier, une simple chaussette sale portée par Michael Jackson pendant un concert a été vendue, accrochez-vous, à 6 200 euros. Je ne sais pas si c'est la gauche ou la droite.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
C'est mardi et comme tous les mardis, c'est la voix de gauche sur RMC. Cécile Duflot, bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Hier matin, un couple dans les Yvelines a été sauvé d'un incendie grâce à un petit appareil qui coûte entre 10 et 30 euros. Et Cécile, vous vouliez mettre à l'honneur les détecteurs de fumée qui sont rendus obligatoires en France depuis une dizaine d'années.
Oui, parce que c'est une belle histoire politique, mais surtout parce que ça nous saoule un peu. Faut changer les piles, ça bip comme ça parce que la pile est usée. On n'y pense plus trop, en fait, mais en fait, ça sauve des vies. C'est un outil extrêmement efficace qui a presque divisé par deux le nombre de morts en France.
Est-ce qu'on est certain de l'efficacité d'abord?
Oui, justement, on est certain de l'efficacité parce qu'en fait, on meurt pas brûlé dans un incendie. On meurt majoritairement asphyxié. Et quand? La nuit. Alors, il y a juste deux chiffres à connaître. 70% des incendies ont lieu de jour. 70% des morts des incendies, c'est la nuit. Pourquoi? Parce qu'avant que vous soyez réveillé, vous avez inhalé les fumées et vous êtes mort. Donc, un incendie, ça se identifie bien parce qu'il y a de la fumée et que le détecteur de fumée vous réveille. C'est comme ça que ça sauve des vies.
Les détecteurs de fumée, ils sont obligatoires parce qu'une loi a été votée par la droite, d'ailleurs en ce sens en 2010. Et vous, lorsque vous étiez ministre du Logement, vous l'avez ensuite rendu obligatoire pour tous les propriétaires.
Oui, c'est une belle histoire politique, je vous le disais. Et moi, j'aime bien quand la politique est efficace et, pour le coup, sauve des vies. Au départ, c'est l'histoire d'une femme, Josiane Boussicot. Sa fille de 17 ans meurt dans un incendie. Elle va voir son député, Pierre Morange, un député LR, qui fait une proposition de loi qui est votée en 2010, qui doit être donc mise en œuvre en 2015. Je deviens ministre en 2012 pour accélérer les choses et aussi rendre ça obligatoire pour les propriétaires de logements qui doivent installer ce détecteur de fumée. Et ça finit par rentrer dans les mœurs. C'est efficace, ça a quasiment divisé par deux le nombre de morts, mais il y a un petit relâchement. Et surtout, les appareils qui ont été installés en 2015, bah, ils ont 10 ans, un peu plus de 10 ans, et ils risquent de moins bien fonctionner, même si on a bien changé les piles.
C'est pour ça que vous lancez un appel aujourd'hui. Il faut se réintéresser aux détecteurs. Qui est responsable ?
Alors, ceux qui sont responsables, c'est les propriétaires quand ils louent un logement, sinon c'est les occupants. Mais de toute manière, intéressez-vous à votre détecteur de fumée, vérifiez les piles et surtout changez-les. S'ils ont 10 ans ou plus, le capteur marche plus bien, il faut les changer. Ça va sauver la vie des gens que vous aimez et notamment des enfants. C'est la deuxième cause de décès des moins de 5 ans. Ils ont des plus petits poumons, ils sont plus vite asphyxiés. Donc je le redis, les détecteurs de fumée, ça s'use, mais ça sauve des vies. C'est moche, c'est blanc, faut jamais les peindre, mais faut les changer. Occupez-vous-en. C'est ça le plus utile à entendre aujourd'hui.
J'adore cette chronique d'une efficacité totale. Je peux vous dire que dès que je rentre à la maison tout à l'heure, je vais vérifier.
Et tous les gens qui nous écoutent, franchement,
je crois que j'en ai un qui est encore dans un paquet que j'ai oublié de coller au plafond.
Vous avez des enfants ?
Oui. Non, mais il y en a quelques-uns chez moi. Mais là, j'ai oublié celui-là. Donc, ok, je m'en occupe dès que je rentre. Et faites comme moi, et faites comme Cécile. Merci en tout cas. Surveillez vos détecteurs de fumée. C'est votre appel ce matin, Cécile Sarkozy. Parce qu'aujourd'hui, c'était la voix de gauche et je voulais justement dire que demain, ce serait la voix de droite, Louis Sarkozy, la droite et la gauche sur RMC chaque matin. Dans un instant, le journal de 8h, à la une, un animateur de périscolaire parisien qui a été mis en examen et il avait pourtant été déjà visé par une plainte en 2024. Témoignage de parents sidérés, vous l'entendrez après avoir appris la nouvelle. Juste après, il y aura l'économie avec Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, Big Bang dans le domaine des stations-service.
Mais oui, les stations BP avaient déjà disparu. Et bien, bientôt, vous ne verrez plus non plus de station Shell. Vous savez, la petite coquille Saint-Jacques jaune et rouge.
Vous nous le direz dans un instant, il y aura aussi la météo. Prenez patience, il fait pas beau, mais demain, ça s'améliore.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans une poignée de secondes, il sera 8h sur RMC. RMC Story, très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. À qui la faute encore ce matin ? Un nouveau rebondissement dans le scandale du périscolaire à Paris. Un animateur récemment mis en examen pour agression sexuelle avait déjà été mis en cause il y a seulement 2 ans. Vous allez voir dans ce journal qu'il n'y a jamais eu autant de fuites de données personnelles en France avec toutes les cyberattaques. Les chiffres sont en hausse de 10% sur un an. Et vous verrez aussi que Victor Wembanyama a encore marché sur l'eau cette nuit aux États-Unis en NBA en étant époustouflant pour le premier match de la finale de Conférence Ouest.
C'est un énième rebondissement dans le scandale du périscolaire à Paris.
Oui, c'est un scandale de grande ampleur qui n'en finit plus d'éclater puisque des enquêtes pour de possibles violences sur les enfants sont ouvertes dans une centaine d'écoles de la capitale, dans une maternelle sur 3. Ça vous donne une idée de l'ampleur. 78 agents ont été suspendus depuis le début de l'année et le nouveau rebondissement concerne un animateur récemment mis en examen pour agression sexuelle dans une école du 11e arrondissement. Pierre Bazin, au service police-justice, RMC. Il avait déjà été mis en cause il y a 2 ans.
Oui, ce sont les agents en charge de l'enquête administrative qui ont révélé aux parents que cet animateur avait déjà été visé par une plainte en 2024 pour des faits d'agression sexuelle sur une fillette. C'est ce que nous rapporte cette parent d'élève qui a assisté à la réunion.
Le temps de l'enquête, il a arrêté de travailler. Ça a duré 6 mois. La brigade des mineurs a conclu à une affaire sans suite. Il a alors décidé de repostuler dans la direction du périscolaire du 11e et du 12e arrondissement.
Les plaintes se sont ensuite multipliées dans les écoles où il a exercé après 2024. Les parents d'élèves sont consternés. C'est le cas notamment d'Éric. Le père de famille a lui-même porté plainte. Sa petite fille était au contact de cet animateur.
Je suis très énervé. Il y a un principe de précaution. Et au nom de ce principe de précaution, cet éducateur n'aurait pas dû être là. On n'a pas fait en sorte qu'il ne récidive pas. Et en cela, il y a un comportement fautif. de la mairie de Paris et d'une de ses administrations, celle qui est en charge du périscolaire. Il faut imaginer, nous le soir, on voit nos enfants avoir peur.
Ce soir, c'est à l'ensemble des parents des écoles concernées que les conclusions de cette enquête administrative seront présentées.
10 plaintes étudiées par la justice à Nanterre, une à Saint-Malo, une autre à Paris. Voilà le détail de l'affaire Patrick Bruel qui est accusé de violence sexuelle par une trentaine de femmes. Alors lui, il conteste, mais l'animatrice Flavie Flamand qui a porté plainte contre lui de la semaine dernière dit, et je la cite, qu'elle est sidérée par la défense des avocats du chanteur.
Et puis on a la preuve par les chiffres ce matin qu'il n'y a jamais eu autant de fuites de données personnelles en France.
On en parle quasiment tous les jours, hein, des cyberattaques, des piratages de grande ampleur. Et bien plus de 6000 notifications ont été recensées en 2025 par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, que vous connaissez certainement sous le nom de la CNIL, chiffre en hausse de 10% sur un an. Dans la moitié des cas, c'est lié à des piratages, Amélie Courtet.
Oui, personne n'est épargné, souligne la CNIL, des fédérations sportives en passant par Free jusqu'au ministère de l'économie. Des fuites de données personnelles de plus en plus massives, note le rapport. Bien souvent, la faille est à trouver chez les prestataires avec des systèmes de sécurité plus vulnérables. Si les attaques se multiplient, analyse la CNIL, c'est d'abord parce que le vol de ces données est rentable, mais aussi parce que ces attaques sont de plus en plus faciles à mener grâce au développement de l'intelligence artificielle. Alors, face à la hausse des cyberattaques, la CNIL promet de renforcer ses contrôles et ses sanctions, mais elle invite également les utilisateurs à adopter une bonne hygiène numérique et ne pas cliquer sur les liens douteux, avoir des mots de passe robustes, une vigilance qui doit être permanente car les tentatives d'escroquerie interviennent souvent plusieurs semaines après le vol de données.
On reparle de la Chine ce matin. Les sommets s'enchaînent. Vladimir Poutine est attendu à Pékin aujourd'hui et demain pour célébrer l'amitié officiellement entre les deux pays. Une semaine après, souvenez-vous, la visite en Chine de Donald Trump qui fait une nouvelle sortie sur le conflit au Moyen-Orient ce matin en évoquant de bonnes chances, voilà ce qu'il dit, de parvenir à un accord avec l'Iran et en disant aussi qu'il avait renoncé à la dernière minute à des frappes visant l'Iran qui étaient normalement, selon lui, prévues ce mardi. Alors dans ce contexte de conflit au Moyen-Orient, les TPE et les PME résiste finalement à la crise mieux que prévu, qui n'entraîne pas de dégradation majeure, avec même des intentions d'investissement en légère hausse. Tout ça, c'est ce que nous dit le dernier baromètre de BPI France. Vous vous souvenez certainement que le gouvernement avait promis une loi d'urgence avant l'été pour répondre à la crise agricole. Eh bien, c'est à partir d'aujourd'hui qu'elle sera examinée à l'Assemblée nationale, où les débats s'annoncent d'ores et déjà électriques. Le RN demande la réintroduction de l'insecticide tueur d'abeilles, comme il a été qualifié, celui qui avait déjà mis le feu aux poudres l'année dernière. La gauche, elle s'oppose à l'installation de poulaillers géants, comme on les appelle, que le texte prévoit d'ailleurs de simplifier pour officiellement faciliter la vie des agriculteurs, nous explique Philippine Boulet.
Camille se lance en 2023 dans le projet de sa vie, construire une exploitation de 30 000 poules pondeuses dans la Vienne. 3 ans plus tard, seul un hangar est sorti de terre.
Ça a été laborieux, ça se concrétise encore.
Le parcours du combattant, selon lui, il a passé 2 ans à faire uniquement de l'administratif.
On nous demande 3 ou 4 fois les mêmes informations, qu'on en était même à douter de la faisabilité du projet dû au retard.
À ces contraintes s'ajoute la recherche de financement. Alors pour faciliter l'installation des éleveurs, le projet de loi prévoit de revoir à la hausse le seuil à partir duquel certaines normes environnementales s'appliquent, de 40 000 à 60 000 poules. Une très mauvaise idée, selon Stéphane Boissavi de l'association Wellfarm, opposée à ces structures. Pour lui, elles sont un danger pour l'environnement.
Il y a régulièrement des incidents qui peuvent entraîner de la pollution, de l'air, des sols, des rivières. Bon, les effluents animaux, etc., entraînent une pollution. Une cuve à lisier, par exemple, qui a une fuite, et puis ça se déverse dans les rivières.
Selon les défenseurs du projet de loi, la création de poulaillers géants permet de répondre à la demande croissante en poulets et en œufs.
À 8h06 sur RMC, sachez que l'ambiance n'est plus vraiment à la fête en cette deuxième semaine du Festival de Cannes, où se réunit le monde du cinéma comme chaque année. Mais tout a changé depuis ce week-end quand le patron de Canal+, un des argentiers du cinéma français, a annoncé le boycott de tous les signataires d'une tribune anti-Bolloré. On est 2 jours après et la polémique n'est toujours pas retombée, Romain Hougain.
Mais non, et c'est même tout le contraire. D'abord, l'annonce du patron de Canal+, Maxime Saada, a fait exploser le nombre de signataires de cette tribune. Désormais, plus de 1200 professionnels du cinéma. Robin Campillo fait partie des nouveaux noms. C'est le réalisateur du film multi-récompensé 120 battements par minute. Et puis, surtout parce que ce sujet est désormais quasiment omniprésent sur la croisette, pas une conférence de presse, pas une interview sans que la question ne soit posée. Et il y a ceux qui dénoncent cette annonce du groupe Canal+, comme Adèle Exarchopoulos. Tu ne peux pas avoir peur de perdre ton travail juste parce que tu exprimes une inquiétude collective, lance l'actrice. Et ceux qui peinent peinent à réellement voir une inflexion idéologique dans les choix de Canal+. En tout cas, la polémique est telle qu'à un an de la présidentielle, même les politiques s'en mêlent. Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon dénonce la mainmise de Vincent Bolloré sur le secteur quand David Lisnard, le maire de Cannes, lui, accuse les signataires de mordre la main de celui qui les nourrit.
Si vous vous réveillez ce matin, sachez que vous avez raté un très gros match de basket cette nuit. C'était le début de la finale de Conférence Ouest en NBA. Alors on va être tout à fait honnête, c'est rare qu'on en parle, hein, des finales de conférence. Mais là, ça vaut le coup. Virginie Fulpin, au sport le matin pour RMC. C'est San Antonio qui a gagné ce premier match donc de finale contre Oklahoma, 122-115 précisément. Mais surtout, Victor Wembanyama, il a été époustouflant.
Oui, il va falloir chercher de nouveaux superlatifs pour qualifier ses performances. C'était un match fou entre les deux meilleures équipes de la saison. Tendance irrespirable. Il a fallu deux prolongations pour les départager. Et c'est Victor Wembanyama qui s'est chargé de donner la victoire à San Antonio. C'est lui qui est allé arracher la deuxième prolongation d'un tir venu d'ailleurs. Et il a survolé la fin de match avec 9 points marqués en 5 minutes. Sur l'ensemble de la rencontre, le Français a inscrit 41 points. Il a réussi 24 rebonds. Vous ajoutez à ça 3 passes décisives et 3 contres. Et vous avez un match de géant. Il a plané au-dessus de tout le monde, y compris de celui qui a été élu MVP, meilleur joueur de la saison, Shai Gilgeous-Alexander. Wemby était peut-être vexé d'avoir fini que troisième de cette élection. En tout cas, à 22 ans, alors qu'il dispute ses premiers play-offs en NBA, la phase finale du championnat, il montre une maturité, une efficacité redoutable.
Et alors, l'autre star du jour, c'est le footballeur Neymar, retenu avec le Brésil pour la Coupe du Monde du mois prochain. Il y avait des milliers de personnes devant le musée où ça a été annoncé hier soir au Brésil, quand le nom de Neymar a été prononcé. Mais il y a son sélectionneur, Carlo Ancelotti, qui prévient déjà, hein, l'ancien Parisien, il jouera, mais seulement s'il a le niveau.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h08, l'économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Emmanuel, il y a une nouvelle grande compagnie pétrolière qui va quitter la France et c'est officiel, c'est la Shell.
Oui, vous ne trouverez sans doute bientôt plus sur vos routes les stations surmontées du célèbre logo jaune et rouge en forme de coquille Saint-Jacques. Shell serait en effet sur le point de se désengager définitivement de son réseau français. Et Shell n'est pas la seule grande compagnie pétrolière à quitter la France. À partir de 2023, vous avez vu disparaître l'enseigne BP. Alors il y a l'enseigne Esso qui est toujours là, mais attention, ce sont des franchises qui n'appartiennent pas à la majeure pétrolière Exxon, mais au groupe d'énergie canadien North Atlantic. Pourquoi ces grandes majeures pétrolières se détournent de la distribution? Parce qu'il y a trop de contraintes et que ça n'est pas une activité assez rentable. En France aujourd'hui, il n'y a plus que deux compagnies pétrolières qui extraient, raffinent et vendent leur propre carburant à la pompe, c'est le français Total Energy et l'italien Eni.
Qu'est-ce que ça change pour nous, pour les automobilistes?
Alors, tous ces changements, ils auront plus d'impact sur l'offre de carburant que sur les prix. Il y a sans doute des stations qui vont fermer. Alors, pas sur les autoroutes, parce que c'est une activité très rentable. Pas dans les campagnes, parce que ces grandes enseignes mondiales sont déjà parties. Mais à la périphérie des villes, autour des rocades notamment. Pas de crainte sur les prix, par contre. Hein, dans un pays où les deux tiers du carburant est vendu en grande surface, la pression concurrentielle est telle qu'il n'y a pas de dérive à attendre du côté des prix à la pompe.
Et puis justement, les prix à la pompe et les prix du jour, comme chaque jour sur RMC, ça monte ou ça descend?
C'est simple, Apolline. Quand le pétrole se maintient autour de 110 dollars le baril, ce qui est proche des sommets atteints depuis le début de cette crise, les prix des carburants au mieux ne baissent plus. C'est le cas du gazole, ou bien remontent un peu. C'est le cas du sans-plomb 95. Hein, le gazole de 15 euros le litre, le sans-plomb 95 2,03 €. Le gaz se stabilise aussi autour de 50 euros le mégawattheure. C'est les plus hauts niveaux quand même depuis début avril. Il faut rappeler qu'on était à 30 euros le mégawattheure avant la crise.
Merci Emmanuel. 8h11.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Il est 8h11 sur RMC. D'abord, vous êtes nombreux, notamment les motards, à vous défendre ce matin parce que les chiffres le disent. Un motard sur trois ne respecterait pas le code de la route. Vos réactions?
Alors, on est tous d'accord depuis 5h ce matin, Apolline, pour dire que 33% des conducteurs de deux roues qui admettent dépasser la limite c'est un chiffre un peu bas. Et ils le reconnaissent eux-mêmes au 32-16. C'est lié évidemment à la puissance du véhicule. Alors, il y a eu opposition ce matin, motard automobiliste. Georges nous dit, il n'y a pas que cette opposition-là. Il ne faut pas oublier les infrastructures que certaines mairies nous mettent à disposition. La ville de Tours, pour ne pas la nommer, nous dit Georges, où on peut se retrouver avec une rue à sens unique où se côtoient automobilistes, motards, cyclistes et encore les cyclistes, parce que la rue est à double sens pour ces derniers. Voilà ce que nous dit Georges ce matin sur le WhatsApp RMC. J'ai Christian aussi qui voulait saluer les motards, mais leur demander de faire un peu moins de bruit. S'il y a bien une chose que je déteste à Toulon, c'est le bruit des pots d'échappement, leur vitesse insupportable. Voilà ce que dit Christian ce matin sur le WhatsApp RMC.
Et dans un instant, Arnaud Demange débarque pour nous faire rire. Notez qu'à 8h30 dans le face-à-face, mon invité, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Est-ce que l'État est dépassé face au narcotrafic, face à l'insécurité du quotidien? Il veut reprendre la main. Il défend aujourd'hui sa nouvelle loi sur les rodéos sauvages, sur le protoxyde d'azote. Et puis, il reviendra évidemment aussi sur les dernières tueries dans le cadre du narcotrafic à Nice ou à Marseille. Rendez-vous donc à 8h30 avec le ministre de l'Intérieur. Juste après, il y aura face à Canteloup, Nicolas Canteloup, tous les jours en direct à 8h50. Pour l'heure, il est 8h12. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h14, Arnaud de Manche est avec nous.
Mais oui, alors, bonjour. Bonjour, qu'est-ce que c'est ce jeu? C'est
parce que derrière moi, oui, il y a jeu, les 26, devenez sélectionneurs des Bleus, il y en aura un gagnant juste après vous, Arnaud.
D'accord.
Restez bien à l'écoute.
Ah, bah, je vais voir ça avec grand plaisir et le parodier demain, alors. Bonjour à tous. Tiens, Apolline, j'avais une question pour vous aussi, les amis. Est-ce que vous avez peur des serpents?
Si oui,
n'allez pas à Castelginest, c'est près de Toulouse. Ils ont vu un cobra royal dans les rues du village. Un cobra royal, c'est-à-dire mi-serpent, mi-ségolène. Deux raisons de se méfier. Alors, si vous le croisez, pas de panique, c'est un cobra, ça n'attaque que rarement, donc ignorez-le, voilà. Faites comme si c'était un bénévole d'Handicap International à la sortie des gares. Vous savez, les gens qui disent « Salut beau gosse, t'as 2 minutes ?» Vous l'ignorez, pareil, parce que sinon tu te retrouves à donner tous les mois 50 balles. Et c'est l'arnaque parce que tu ne reçois jamais ton handicapé. Je ne l'ai jamais eu, moi. Mais parlons de politique. On se discipline. Oui, on est allez, à un an de la présidentielle.
Allez,
il y a déjà plus de 30 candidats.
Oh là 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 là.
C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle chez les experts l'effet Macron.
On a autant de candidats, Jamy. J'ai jamais vu ça, Jamy. Plus de 30, Jamy.
Eh bien, Fred, c'est l'effet Macron. Depuis qu'un homme sans parti, sans expérience et sans soutien est devenu chef de l'État, n'importe qui se dit « je peux le faire » et le nombre de candidatures remonte. Et l'envie de voter pour un de ces tocards redescend. Alors, parmi les candidats putatifs, c'est pas un gros mot,
non,
ça veut dire supposé. Gabriel Attal qui veut organiser un grand meeting le 30 mai, c'est-à-dire le même jour que la finale de Ligue des Champions du PSG. Oh, bravo champion, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir regarder, Jamy. Est-ce qu'on va regarder Gabriel Attal en meeting ou Dembélé qui écrabouille Arsenal? Alors, ceci dit, il peut quand même faire une grosse audience à Marseille. Je pense que sur le Vieux-Port, tout le monde sera dans les bars pour suivre le meeting de Gabriel Attal.
C'est sûr.
Mon projet pour la France, c'est de poursuivre ce que le président... Oh, y a rien d'autre à la télé, là. On peut changer de chaîne.
Et but de Dembélé, Paris est champion.
Non, putain, remets Gabriel Attal, comme puisse voir au moins un Parisien qui prend une branlée, quoi. Au moins.
À l'occasion du festival de Cannes, Arnaud, des militants écologistes appellent les stars à privilégier le train. Ou l'avion en classe éco pour venir sur la Croisette et délaisser donc les jets privés.
Oui, c'est vrai que c'est pas écologique. Alors, ceci dit, ça doit quand même être plus confortable de voler en jet privé que sur Ryanair. Tu sais, quand t'es coincé entre des enfants et des ados et ça, qui sont insupportables. Comment ça, qui sont insupportables? Mais pas du tout. Baliverne et Bilvesé.
Jack
Lang. Et oui, vous savez qu'en tant que ministre de la Culture, enfin, ex-ministre de la Culture, si vous y tenez, c'est pas pour autant que je paierai au restaurant. Cette histoire d'ado insupportable dans les avions, c'est un cliché. Ça arrive aussi d'être entouré d'ados très aimables, bien élevés, obéissants à bord d'un jet privé, comme celui de mon ami Epstein, et ça se passe très bien.
Bien sûr.
J'ai rencontré le pilote chez Woody Allen, et nous recevions des stagiaires. Nous leur disions « Joey, tu as déjà vu un cockpit ?»
Et tu aimes les films sur les gladiateurs? Joey, tu as déjà vu un ministre tout nu?
Non, allez, c'est bon. Merci, Jack Lang. Canal Plus va blacklister les signataires de la tribune anti-Bolloré qui a donc circulé dans le cinéma français.
Oui, alors le groupe de la liberté d'expression, Canal Plus, s'apprête à se passer des 600 signataires. Il y a Juliette Binoche, Swann Harlow, Sergi Lopez, Adèle Haenel. On va se retrouver avec des films où il y aura seulement les fidèles de Bolloré, comme Jean-Marc Morandini dans le remake des Choristes.
Oh non!
Salut les garçons! Alors aujourd'hui, on va chanter une nouvelle chanson, Prendre un enfant par la main.
Oh, encore!
Allez, ouvrez vos chemises, il faut que vous puissiez remplir vos poumons et donner toute la puissance.
Monsieur!
Qu'est-ce qu'il y a, Baptiste?
On peut remettre nos pantalons,
quand même? Et après, il y aura Pascal Pro dans le remake de La Grande Vadrouille.
Ah oui!
Mais Pascal! Mais pris mes chaussures, mon vélo. Comment on va faire contre les nazis? Mais pourquoi? Pourquoi ostraciser comme ça nos amis d'Outre-Rhin? Mais vous êtes un cliché ambulant, mon pauvre Bourvil. C'est du panurgisme. Vous cédez à la doxa wokiste anti-vermin. Allez, donnez-moi votre uniforme allemand. C'est pour passer inaperçu? Non, je trouvais ça joli. Et après? Après le succès du film d'Artus, un petit truc en plus,
oh,
Vincent Bolloré présentera le premier film de Philippe de Villiers, un petit turc en moins.
Oh non.
Mustapha, Mustapha, dépêche-toi. Ton vol pour Istanbul va partir. Bonjour Mustapha, je suis un ami du pilote. Dis-moi, tu as déjà visité une prison turque? Et tu as déjà été dans une salle de gymnastique? Oh non! Encore Jack Lang. Bref, plein de beaux films en préparation, Apolline.
Ah, c'est magnifique.
C'est merveilleux.
C'est magnifique. Merci beaucoup Arnaud de Manche en direct. Il est 8h19, c'est l'heure de jouer et de gagner, de faire gagner surtout Simon. Bonjour Simon.
Bonjour Apolline.
Simon, félicitations, c'est vous qui avez gagné le jeu. Mais on va voir ce que vous avez gagné. Hein. Attention.
Allez,
comment merci. Ça va Simon? Vous faites quoi dans la vie? Vous habitez où?
Alors, j'habite à Mormoron, dans le Vaucluse.
D'accord.
Et je suis centraliste à béton.
Alors, centraliste à béton. Alors, Simon, écoutez-moi. J'ai devant moi une sorte quoi, de tableau.
La compo.
La compo. Les 26 maillots.
26 sur le terrain.
Vous avez été sélectionné, mais surtout, vous devenez sélectionneur, en fait, ce matin. Puisque d'accord. Vous allez devoir choisir un joueur. Derrière chaque joueur, il y a un super cadeau. Donc vous sélectionnez un numéro ou un nom pour savoir ce que vous remportez. Je vous écoute.
Théo Hernandez.
Théo Hernandez, c'est parti.
Oui. Il est là, c'est le 19.
Allez, hop, je me fais plaisir. Hein.
On ouvre la case avec Mathieu. Et voilà, là, attention, je vais vous dire ce que vous avez gagné, Simon. Vous êtes prêt?
Oh oui, je suis prêt.
Simon, vous avez gagné le pack supporter, un maillot officiel de l'équipe de France, le ballon officiel de la Coupe du Monde 2026, le kit officiel du supporter de l'équipe de France. Vous allez pouvoir vibrer en écoutant et les soutenir, les Bleus. Félicitations, Simon.
Merci, c'est super. Merci à vous. Merci à Pauline.
Simon, on vous félicite. On est très heureux pour vous. Vous allez la suivre, évidemment, la Coupe du Monde. Vous pourrez la suivre en intégralité sur RMC Radio, officielle de la Coupe du Monde 2026. Et pour continuer, vous inscrivez tout de suite. Il y a encore des cadeaux à gagner, plein de cadeaux à gagner. Et je trouve vraiment que Mathieu, vous faites ça très, très bien.
C'est bien, hein,
d'ouvrir la petite case.
C'est une reconversion.
C'est une très belle
hôtesse.
Vous pouvez donc continuer de vous inscrire pour remporter des super cadeaux. Vous envoyez tout de suite, comme Simon l'a fait, liste au 7-32-16. Liste au 7-32-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous. Dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Il vient défendre sa loi. Elle s'appelle Riposte. L'idée, c'est de lutter contre les rave parties sauvages, contre les rodéos, contre le protoxyde d'azote. Le problème, c'est qu'il y a déjà des lois et elles ne sont pas vraiment appliquées. Évidemment, je reviendrai sur la question de l'efficacité de ces lois avec lui dans un instant. Ça se passe sur RMC BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Il rappelle des titres, Victor Pourchet.
Donald Trump dit retenir ses coups contre l'Iran. Frappes américaines d'ampleur retenues, reportées in extremis à la demande des autres pays de la région. C'est ce qu'assure le chef de la Maison-Blanche pour qui un accord a de très bonnes chances d'aboutir avec Téhéran. C'est un procès plus qu'attendu par les parents du petit Jonathan. 22 ans jour pour jour après la découverte du corps du garçon de 10 ans au fond d'un étang de Guérande. Le principal suspect de cet enlèvement dans un camp de vacances puis du meurtre. Un Allemand de 55 ans est jugé à partir d'aujourd'hui. La politique, c'est le projet de loi agricole dont l'examen va commencer à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il contient notamment des mesures pour réintroduire certains pesticides ou encore l'allègement de certaines règles pour l'installation d'élevage intensif. À Nice, 3 personnes ont été mises en examen hier. Parmi elles, l'auteur présumé des tirs lors d'une fusillade qui avait fait, je vous le rappelle, 2 morts et 6 blessés dans le quartier des Moulins sur fond de trafic de drogue. Le sport et la nuit de folie en basket pour Victor Wembanyama. 41 points, 26 rebonds pour le français des San Antonio Spurs contre l'Oklahoma Thunder. Victoire des Spurs face aux champions en titre dans ce premier match des finales de la Conférence Ouest, c'est-à-dire les demi-finales sur la route pour le titre NBA. Du foot et la joie des Brésiliens après des mois de suspense. Neymar, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, a bien été sélectionné pour participer à la prochaine Coupe du Monde. Ce sera dans un mois aux États-Unis. RMC radio officielle de cette compétition. Les 104 matchs commentés en direct sur notre antenne à partir du 11 juin prochain. Et puis la météo, un temps gris et pluvieux sur les trois quarts nord du pays. Pas mal de vent sur le nord-ouest avec un temps tout de même plus clément dans le sud. Un ciel voilé, notamment de l'Aquitaine à la Méditerranée. Côté température, elles sont en hausse cet après-midi. Comptez de 16 degrés à Lille et Reims jusqu'à 24 degrés à Toulouse. Il fera 16 à 18 à Paris ou encore 22 à Lyon.
C'était la météo sur RMC. Bonne journée.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, mon invité, c'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il défend sa loi, elle s'appelle Riposte. L'idée, c'est de lutter contre les rodéos sauvages, contre les rave parties, contre le protoxyde d'azote, mais aussi contre le narcotrafic. Est-ce que vraiment ce sera efficace? J'essaye de lui poser la question et de tout comprendre pour vous dans un instant. Ça se passe sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Nunez.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le ministre de l'Intérieur. Très nombreuses questions à vous poser sur la lutte contre le narcotrafic, sur les relations avec l'Algérie. Votre collègue ministre de la Justice y était hier. Et puis sur cette loi que vous défendez au Sénat, la loi qui s'appelle Riposte, réponse immédiate aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité. On parle là de rodéo sauvage, on parle de protoxyde d'azote, on parle des rave parties, et sur toutes ces questions-là, un arsenal de réponses plus efficaces, dites-vous. Mmh. On va les prendre une par une, je voudrais qu'on commence par parler du protoxyde d'azote. On en parle très régulièrement sur notre antenne. Il y a une vraie explosion de la consommation du protoxyde d'azote, avec des conséquences pour la santé, évidemment, de ceux qui la consomment, mais aussi pour tous les autres, parce que ça provoque des accidents, parce que c'est devenu un quotidien et un enfer. Est-ce que vraiment vous allez cette fois-ci pouvoir y mettre fin?
Oui, parce que vous avez raison de souligner que ça, le protoxyde d'azote crée des dégâts considérables. Il y a énormément de consommation, des conduites sous l'état de protoxyde. On a eu des accidents mortels très graves. Et actuellement, ça n'est que contraventionnel. C'est-à-dire qu'on ne peut appliquer que des contraventions. Il y a beaucoup de préfets qui prennent des arrêtés d'interdiction du protoxyde, enfin, en tout cas de la consommation sur la voie publique, beaucoup de maires. Mais ça n'est que contraventionnel. Et avec la loi Riposte, dont le débat, la discussion a commencé hier soir, déjà 2 articles qui ont été adoptés hier soir, on crée 3 délits. On crée trois délits, dont celui évidemment de la consommation, du transport sans usage autorisé, et puis on a aussi évidemment le délit de conduite sous l'emprise du protoxyde d'azote. Donc il y aura plus de sanctions contre le protoxyde d'azote.
Alors évidemment tout est dans le détail, et effectivement comme vous le dites, sauf usage autorisé. Et c'est tout le problème, et on voit bien évidemment que le diable s'est niché dans les détails. Depuis un bout de temps, le protoxyde d'azote, officiellement, on a le droit de l'utiliser dans la cuisine pour faire les espèces de mousses que font les grands cuisiniers. Sauf que désormais, on parle pas de petites cartouches comme il y en avait dans les vieux tiroirs de nos grands-mères. On parle de bonbonnes, on parle de tanks, ça s'appelle même des tanks, c'est des trucs qui font plusieurs kilos, c'est considérable. Et moi, j'ai quand même vérifié, il y a une loi déjà qui existe. Cette loi, c'est la loi du 1er juin 2021. Tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote. Cette loi, elle écrit noir sur blanc qu'il est interdit de faire usage ou vente du protoxyde d'azote. Je ne comprends pas pourquoi il y a des interdictions Mmh, mmh. Qui sont écrits dans la loi.
Non, mais c'est
pas. Et que dans les faits,
c'est pas en ces termes que se pose le problème. C'est pas en ces termes que se pose le problème parce que d'abord, la vente à petite quantité est possible, malgré les textes que vous venez de citer. Et par ailleurs, il y a un usage professionnel qui en est fait, qui est permis et qui est détourné en réalité. Donc les délits vont permettre de lutter contre cet usage détourné, qu'il s'agisse du transport, de la consommation ou de la conduite sous l'empire de.
Mais comment vous allez faire par rapport
au délit,
ça veut dire,
un délit, ça veut dire des sanctions plus importantes, c'est-à-dire possibilité de garde à vue, le cas échéant. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le débat qui se pose, et on en discutera dans le cadre du projet de loi Riposte parce qu'il y a des amendements en ce sens, le débat c'est de savoir si on interdit totalement la vente du protoxyde d'azote, sauf à déroger pour des professionnels. Voilà. Sauf qu'il y a des.
En fait, que ce soit plutôt l'inverse. Effectivement, on interdit par principe.
Il y a des règlements européens qui empêchent de faire cela, mais nous allons en discuter dans le cadre de la discussion Riposte. Oui, oui. Évidemment qu'on va réserver la commercialisation du protoxyde d'azote aux seuls besoins nécessaires, aux seuls professionnels qui en ont besoin. Évidemment que c'est le chemin sur lequel il faut arriver, mais pour l'instant, ça n'est pas rien. Apolline de Malherbe, on crée trois délits qui vont permettre aux policiers, aux gendarmes, quand ils constatent des jeunes qui ont du protoxyde d'azote sur eux, qui en consomment sur l'espace public ou des personnes qui en vendent sous le manteau dans des épiceries, par exemple, c'est ce qu'on voit se constater en petite couronne, en grande couronne sur l'ensemble du territoire national. Un certain nombre de personnes qui en vendent
de manière
illégale.
Mon problème, c'est pas de dire que c'est rien.
Je
constate évidemment que vous prenez un certain nombre de mesures. Ce qui me sidère toujours, c'est le décalage, pardonnez-moi, entre les annonces, la loi et le réel. Il est interdit depuis 2021, interdit de consommer du protoxyde d'azote pour les mineurs.
Oui, donc de vendre du protoxyde d'azote à des mineurs, c'est pas tout à fait la même chose.
Il est interdit. J'ai tout à fait la loi sous les yeux. Il est interdit de vendre ou d'offrir du protoxyde d'azote. Il est interdit également de vendre et de distribuer tout produit spécifique destiné à faciliter l'extradition du protoxyde. Tout ça, c'est dans la loi de 2021. Le problème, c'est aussi les sites de commerce. Et là aussi, je voudrais vous reposer la question de l'efficacité. Les sites de commerce électroniques doivent spécifier, c'est la loi de 2021, l'interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne. Ça veut dire qu'il suffit qu'ils mettent cet interdit, mais que derrière, ils vendent des bonbonnes qui n'ont rien de cuisine. C'est-à-dire qu'il suffit de les regarder pour comprendre.
C'est bien pour ça que nous créons des sanctions, trois délits qui vont permettre de réprimer cet usage, ce détournement d'usage.
Ça veut dire que vous allez fermer ces sites de
commerce. Je vous assure que ça n'existe pas. Oui, la loi Riposte permettra de fermer tous les commerces qui vendent de manière illicite du protoxyde d'azote.
Aujourd'hui, il y a une amende de 3 750 € contre tous ceux qui vendraient dans les commerces, dans les débits de boissons, ce que vous disiez à l'instant, hein, les ventes sous le manteau, et y compris sur Internet, du protoxyde d'azote aux mineurs. Est-ce que vous savez si cette amende, qui existe déjà dans la loi actuelle, avant même la vôtre, est vraiment appliquée?
Oui, mais je veux dire que là, je vois bien le débat, c'est est-ce qu'on a des textes qu'on a...
En fait, c'est est-ce que la loi est appliquée?
Non, la loi est appliquée, mais vous ne pouvez pas sanctionner des personnes qui consomment sur l'espace public, des personnes qui transportent de manière illégale, et dans le projet de loi Riposte, on permet en plus de fermer administrativement des commerces qui ne sont pas des commerces spécialisés. Les textes dont vous parlez visent des commerces spécialisés. Moi, je vous dis qu'il y a on vend du protoxyde d'azote dans des épiceries, dans des commerces qui n'ont pas le droit de le faire. Ça, on le constate tous les jours et on pourra sanctionner.
Et fermer la boutique.
Ce sera un délit, on pourra fermer surtout, fermer administrativement. Et ça, c'est extrêmement important.
Les rave parties. Le 1er mai dernier, vous avez été confronté, Laurent Nunez, à ces 20 000 fêtards qui s'étaient installés près de Bourges et notamment sur un site militaire. Vous vous êtes d'ailleurs rendu sur place. Là encore, la participation à une free party, aujourd'hui, elle n'est pas réprimée en tant que telle. Donc, on se retrouve à devoir trouver d'autres motifs, comme par exemple la consommation de stupéfiants ou les atteintes sexuelles et sexistes. Voilà ce qui permet parfois de sanctionner les participants. Qu'est-ce qui va se passer demain avec votre loi ?
Là, actuellement, on peut pas dire que ça n'est pas réprimé, mais c'est réprimé trop faiblement. C'est une contravention. Que vous soyez un organisateur, que vous soyez un participant, c'est une...
Si vous êtes l'organisateur, vous avez 1 500 € de contravention et la saisie du matériel sonore.
Et pour les participants, la somme est 10 fois inférieure. C'est ridicule. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'en faire un délit. Vous êtes organisateur d'une rave party. Vous prenez la responsabilité de faire venir parfois des milliers de personnes sur un site sans aucun encadrement, en toute méconnaissance des droits, sans avoir obtenu l'autorisation du préfet. Donc ça deviendra un délit. Il y a manifestement une mise en danger d'un certain nombre de personnes. Il n'y a pas de cadre sanitaire. Ce sont des lieux, par ailleurs, où on consomme énormément de produits stupéfiants. On l'a encore vu ce week-end en Lozère, où une rave party s'est mise en place et, heureusement, grâce à l'intervention des gendarmes, n'a pas pu prospérer. On a saisi énormément de produits stupéfiants. Donc, ça devient un délit. Et même chose pour les participants. Vous ne pouvez pas passer 3-4 jours sur un terrain, créer des nuisances énormes pour le voisinage, pour les agriculteurs, des dégradations et repartir avec la... Parce que nous verbalisons. Les gendarmes, en l'occurrence, puisqu'on est souvent dans une gendarmerie, verbalisent, mais c'est qu'une contravention. C'est 135 euros et vous avez des jeunes qui vous disent le droit d'entrée à la rave party, c'est 135 euros. Donc ce sera un délit. Ça devient un délit pour les participants également.
Donc l'amende deviendra comment, forfaitaire? Elle l'est déjà?
On applique par ailleurs, donc ça deviendra un délit pour les participants. Donc délit, ça veut dire le cas échéant peine d'emprisonnement de 6 mois, voire 7500 euros d'amende. Mais il y aura la possibilité d'éteindre l'action publique en appliquant l'amende forfaitaire délictuelle. C'est-à-dire on constate, la personne paye et l'action publique est éteinte. Donc enfin, ça permettra de travailler beaucoup plus vite.
La personne paye, la personne ne paye pas.
La personne paye, elle s'engage, soit elle paye sur le champ, soit elle s'engage à payer, et sinon elle est poursuivie, évidemment.
Mais vous savez qu'il n'y a que 20% de ces amendes qui sont recouvrées.
Non, il y a 20%.
C'est ce que dit la Cour des comptes.
50% pour les consommateurs de stup, et c'est 20% dans la généralité des cas. La Cour des comptes ne remet pas en cause le principe de l'amende forfaitaire délictuelle. Il faut que vos téléspectateurs comprennent bien. Ça veut dire qu'on a un délit, qu'on constate, la personne paye et l'action publique est éteinte. C'est moins de travail pour les forces de sécurité intérieure, moins de travail accessoirement pour les magistrats, et surtout la Cour des comptes ne remet pas du tout en cause le procédé de l'amende forfaitaire délictuelle qu'on a multiplié à de nombreux types de délits, mais elle
pointe le décalage entre ce que l'on dit
propose, elle formule un certain nombre de recommandations, effectivement en matière de recouvrement, effectivement en matière d'organisation, et le gouvernement a tout un plan pour améliorer le fonctionnement de l'amende forfaitaire délictuelle, et d'ailleurs dans le cadre du projet de loi Riposte, je dépose au nom du gouvernement 3 amendements qui vont permettre d'en améliorer le recouvrement.
De pouvoir recouvrir ces amendes de manière plus efficace.
De pouvoir recouvrir ces amendes de manière plus efficace, évidemment.
Le matériel sonore et les jeux de lumière sont souvent normalement, en tout cas, vous devriez pouvoir les saisir, sauf qu'ils sont souvent loués dans des entreprises à l'étranger, ce qui rend là encore l'application quasi impossible.
Non, parce que justement, dans le cadre du projet de loi Riposte, on a prévu un certain nombre de dispositions qui le rendront possible. Et surtout, on va créer une obligation pour les loueurs.
Y compris les loueurs étrangers.
C'est d'ailleurs la commission.
Parce que c'est souvent loué en Espagne, en Italie.
On les saisira sur le territoire
même
national. Vous avez aussi beaucoup de locations qui sont faites en France. Et donc, on va créer une obligation pour les loueurs. D'ailleurs, c'est la commission au Sénat, dans le cadre de l'examen du projet Riposte, qui a fait cette proposition, qui les obligera à tenir un registre, à relever l'identité et à obtenir la preuve de la déclaration légale de la manifestation musicale autorisée de manière à ce qu'ils puissent louer du matériel.
Vous pensez obtenir, Laurent Nunez, une majorité pour ce texte?
Je ne vois pas qui s'opposerait à un certain nombre de mesures plus répressives en pénal, en administratif, avec les fermetures administratives dont on a parlé. Vous avez aussi une mesure administrative qui sera très importante, c'est l'interdiction de conduire tout véhicule moteur à terrestre pour toute personne qui se livrera à des rodéos. Je ne vois pas quel parlementaire peut s'opposer à un durcissement des sanctions administratives ou pénales sur ces délits qui empoisonnent la vie de nos concitoyens au quotidien. Et vous les avez cités, les répartis, les rodéos, les mortiers.
Enfin, devrait le voter.
Bien sûr. Enfin, je suis très confiant. C'est un texte qui doit pouvoir permettre d'aboutir à un consensus.
Sur le narcotrafic, le procureur de Nice l'a dit hier. Il semble avoir des ramifications marseillaises sur ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Est-ce que ça veut dire que désormais, au fond, Nice se marseillise, si je puis me permettre?
Moi, je vais vous dire, Apolline Malherbe, j'ai surtout retenu ce qu'a dit le procureur de la République, qui d'ailleurs recoupe largement ce que le ministre de l'Intérieur, modestement, avait dit quelques jours avant, quand je me suis déplacé à Nantes, ou à l'Assemblée nationale, quand j'ai été interrogé sur le drame qui s'est produit à Nice. Puisqu'à Nice, c'est un drame, on a très probablement deux personnes qui ont été tuées sans avoir aucun lien avec le trafic. C'est un drame, c'est un règlement de compte. Je vais vous dire qu'à Nice, qu'a dit le procureur, il a confirmé que les forces de sécurité intérieure faisaient un travail remarquable pour lutter contre les trafics de stupes, que dans le quartier des Moulins, il y avait 12 points de deal, il n'y en a plus que 2. Il y a une guerre de territoire autour de ces 2 points de deal, et c'est surtout ce que je veux retenir de ce qu'a dit le procureur. C'est qu'on lutte contre le trafic de stupes, on a des résultats, 12 points de deal, 2 points de deal qui restent, et on va continuer évidemment ce travail. Les policiers, sous l'autorité des parquets. Il a donné un chiffre qui est extrêmement important. Dans ce seul quartier en 2025, il y a eu 100 écrous. Depuis le début de l'année, on est à 50 personnes écrouées au titre du trafic. Donc voilà, le trafic de drogue, je le redis, c'est pas une fatalité.
Il recule.
il recule. Nous obtenons, nous gagnons des batailles. La guerre est loin d'être gagnée, mais nous obtenons des gains significatifs. Il faut continuer. Et malheureusement, les règlements de compte sont la contrepartie de ces victoires, parce que forcément, il y a des conquêtes, il y a des velléités de reprendre des points de deal. Et effectivement, le procureur de la République, les procureurs, parce qu'ils ont communiqué à deux en l'occurrence, ont bien indiqué qu'il pouvait y avoir des ramifications extérieures. Et le cas de Marseille a été cité, mais c'est vrai. Sur Marseille, c'est vrai, sur d'autres parties du territoire national.
C'est dur.
Où la pieuvre marseillaise essaie de s'étendre.
Je vous sens ce matin très.
C'est dur.
Presque sur la défensive.
Je ne suis pas sur la défensive. Je ne suis pas sur la défensive du tout. Moi, je suis toujours quelqu'un de très serein, mais en même temps très déterminé. Et je ne peux pas, comme ministre de l'Intérieur, laisser dire que l'État est dépassé dans la lutte contre le narcotrafic. Il y a tellement de choses qui sont faites, tellement de résultats qui sont obtenus. Là, nous ne parlons évidemment que des points de deal. C'est-à-dire le lieu d'écoulement de la drogue. On ne parle pas des réseaux de logisticiens, des réseaux intermédiaires, de toutes ces personnes qui organisent l'importation des trafics de stup et contre lesquels la Direction Générale de la Police Nationale, et notamment la Direction Nationale de la Police Judiciaire, et toutes les sections de recherche de gendarmerie font un travail formidable. Et puis il y a toute l'importation massive de cocaïne qui arrive des pays d'Amérique du Sud ou pour d'autres types de produits du Maghreb et contre lesquels nous luttons. Et il y a des prises qui sont réalisées qui sont exceptionnelles. Donc on ne peut pas dire que l'État ne fait rien contre le narcotrafic. Ça n'est pas possible.
La lutte,
ça n'est pas audible.
Se fait notamment aussi par la question de d'une forme de solidarité internationale. Votre collègue Gérald Darmanin à la justice était en Algérie hier. Il a dit qu'il avait bon espoir justement d'une coopération, notamment autour de la question des aides mafias. Est-ce que ça peut être décisif?
Oui, mais Gérald Darmanin a parfaitement raison. Ça peut être décisif. On a un certain nombre d'individus, de groupes mafieux criminels qui sont réfugiés dans d'autres pays ou qui voilà, donc cette coopération judiciaire elle est absolument indispensable. Pas qu'avec l'Algérie et pas qu'avec le Maghreb.
Avec l'Algérie, vous aviez dit que me semble-t-il que votre homologue serait là cette semaine.
Oui, pas cette semaine parce que j'ai tous les textes, j'ai beaucoup de textes cette semaine. D'accord. Il y a le texte riposte, il y a la proposition de loi de monsieur Rodwell qui passe au Sénat, il y a le pacte asile migration, mais à partir de la semaine prochaine oui on est en train de caler ce déplacement qui va avoir lieu dans
donc
les jours.
Donc vous allez recevoir votre homologue
avec ses directeurs
algérien.
Avec l'ensemble de ses directeurs de sécurité et je vais le recevoir avec l'ensemble des directeurs de sécurité du ministère de l'intérieur français.
Voilà. Vous avez dit que ça s'améliorait, notamment sur le renvoi des OQTF de nationalité algérienne sur le territoire algérien. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle proportion ça s'améliore?
Mais on a donné les chiffres. D'abord, la coopération avec mon homologue, le ministre de l'Intérieur algérien, elle porte sur les enjeux migratoires, notamment sur la reconduite, mais pas que. On a aussi des coopérations en matière de renseignement, des coopérations dont a parlé Gérald Darmanin également, l'antiterrorisme, échanges d'informations, dans les deux sens. Les deux pays échangent des informations. Il y avait beaucoup de choses qui étaient au point mort. C'est surtout ça ce qu'il faut dire. On me demande de dire quel nombre de laissez-passer, d'OQTF, mais je veux redire qu'on a renoué des relations sécuritaires qui n'existaient plus.
Vous diriez qu'aujourd'hui, les relations sont bonnes?
Oui, les relations sont bonnes, elles sont reparties. Voilà, donc ce sont deux grands pays qui se parlent en matière de sécurité. Pour répondre très clairement à votre question, je ne suis pas en train de me dérober. On en est à 150 depuis le début de l'année. Et surtout, depuis ma visite, nous avons obtenu autant de laissez-passer. Il n'y en avait pas eu entre le 1er janvier et la date de ma visite qui s'était déroulée mi-février. Donc voilà, oui, les choses se réenclenchent. Bien sûr qu'il faut que ça aille plus vite, bien sûr qu'il faut que ce soit plus fort. Mais les choses se réenclenchent et moi, je m'en satisfais. Voilà. Et je souhaite évidemment qu'on monte en puissance et je n'ai pas de raison de penser que ce ne soit pas le cas.
Gérald Darmanin espère un traité d'amitié, dit-il, avec l'Algérie. Vous souscrivez?
Oui, si Gérald Darmanin l'a dit, j'y souscris, mais à titre évidemment, moi, je pense que nous avons toujours les relations avec l'Algérie ont toujours été parfois compliquées, parfois, mais elles sont indispensables, elles sont essentielles. Vous avez plusieurs millions de personnes qui, de près ou de loin, ont un rapport avec l'Algérie. Donc, il faut évidemment qu'on ait de bonnes relations avec l'Algérie. Moi, j'ai toute ma carrière, je n'ai travaillé qu'à ça.
Vous parliez à l'instant de la question des OQTF, vous l'avez peut-être vu, Robert Ménard est convoqué par la justice pour avoir refusé un mariage dans sa ville entre une personne sous OQTF et une autre. Il dit au fond qu'il y a une sorte d'injonction contradictoire entre deux obligations, l'obligation dans l'OQTF, obligation de quitter le territoire, et l'obligation de marier, sauf qu'une fois que la personne est mariée, il est plus difficile mécaniquement de la faire quitter le territoire. Comment on fait face à ces deux injonctions contradictoires? Et est-ce que vous soutenez plutôt la position de Robert Ménard ou la position du juge qui dit qu'il encourt jusqu'à 75 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité?
Comment on fait face à ces deux injonctions?
Les textes ne permettent pas à un maire de s'opposer à un mariage dans ce genre de situation.
Donc ça,
c'est l'état du droit. Bon. Après, qu'il y ait des réflexions sur une évolution possible du droit pour permettre à un maire au moins de saisir le procureur de la République, qu'un certain nombre de vérifications puissent être faites quand manifestement le mariage n'a pour but que d'obtenir finalement un titre. Voilà, je crois que le droit pourrait évoluer en ce sens, mais attention, nous avons la Constitution, nous avons qui s'y oppose, et donc moi j'ai déjà répondu en ce sens à des sénateurs. Il y a une proposition de loi au Sénat.
Oui, ma question c'est est-ce que vous considérez que Robert Ménard aurait dû faire ce mariage?
Je pense qu'un maire doit respecter la loi. Ça, c'est
donc aurait dû respecter la loi. Il aurait dû respecter la loi.
Ça n'empêche pas que nous réfléchissions à ce sujet. Je l'ai dit en répondant à une sénatrice qui m'avait interrogé sur une proposition de loi qui avait été adoptée au Sénat. Ça n'empêche pas de réfléchir à faire évoluer les prérogatives des maires pour pouvoir effectuer un minimum de contrôle. Voilà. Actuellement, il faut qu'on démontre que le but exclusif a été d'obtenir un titre de séjour. Peut-être qu'une rédaction plus light, qui pourrait consister à dire que ça peut être l'un des buts, permettrait sans doute d'aboutir. En tout cas, moi, j'y travaille parce que je pense qu'il faut apporter une réponse aux maires qui s'interrogent.
Est-ce qu'on peut espérer le retour de Christophe Glaize, Laurent Nunez?
Non, mais tout le monde le souhaite, évidemment. Voilà, tout le monde le souhaite. C'est un sujet dont, moi, personnellement, je ne parle pas à la demande de la famille. Je comprends que Gérald Darmanin a eu l'occasion d'en parler avec le président. Et c'est une bonne chose. Voilà, c'est une très bonne chose.
C'est une très bonne chose. Une dernière question. Le 30 mai, finale de la Ligue des Champions, quel arsenal vous allez mettre en place? PSG Arsenal d'ailleurs.
Non mais c'est la finale, je l'ai dit déjà dans un quotidien du dimanche, on s'attend évidemment à ce qu'il y ait des tentatives de débordement, qu'il y ait c'est à chaque match maintenant, c'est comme ça.
C'est habituel désormais.
Ça veut pas dire qu'on s'y habitue. Ça veut dire qu'on s'y prépare. Bon, il y aura énormément de monde dans les rues de Paris, en de nombreux endroits de la capitale. Il y a ceux qui rêvent d'empêcher les gens d'arriver dans Paris, ça n'existe pas. Il y aura un dispositif qui visera à contenir les débordements s'il y avait des tentatives de débordement, mais il y aura des tentatives de débordement. Et il y aura, je peux vous l'assurer, comme ça s'est produit pour la finale l'année dernière, comme ça s'est produit pour la demi-finale, il y aura évidemment une riposte des forces de sécurité intérieure qui empêcheront tout débordement. Et moi, je mets en garde tous ceux qui viendraient non pas pour célébrer la victoire du Paris Saint-Germain, mais pour piller des commerces, s'en prendre aux forces de l'ordre, agresser les personnes. La réponse des effectifs de la préfecture de police, du préfet de police, évidemment, du ministre de l'Intérieur, elle sera extrêmement ferme.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC BFM TV. Laurent Nunez. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Laurent Nunez était mon invité dans le face-à-face. Éric Ciotti, vous souhaitiez réagir, bonjour.
Oui. Bonjour Madame de Malherbe. Oui. Écoutez, j'ai entendu Laurent Nunez parler de délinquance des jeunes. Alors, c'est vrai qu'à Nice, il y a eu une petite fusillade à balles réelles, légèrement mortelle, je vous l'accorde, avec des petits kalachnikovs. Mais pour le reste, en deux mois, j'en parlerai à mon ami niçois, Monsieur Marchal. En deux mois, il peut en témoigner, j'ai tout éradiqué. Le protoxyde d'azote, il n'y en a plus à Nice. Monsieur Marchal a cherché, il ne trouve pas. Bon, il y a peut-être encore quelques mamies qui inhalent, c'est vrai, de la ventoline. Ah. Mais au niveau des rodéos urbains, je crois qu'on a eu quoi? En deux mois, on a eu un rodéo urbain. C'est Madame Castagnetti et Madame Marchal qui ont fait un concours de roue arrière avec leur fauteuil roulant. Et c'est Madame Marchal qui a gagné en tenant sur 22 centimètres. Ça n'a pas non plus cherché bien loin.
Bien sûr. Laurent Nunez souhaite aussi limiter les rave parties.
Mais ça, c'est pareil. Au début, nous avons agi. Nous avons instauré un couvre-feu à 18h30, mais c'était inefficace.
18h30?
Mais oui, parce qu'à Nice, un couvre-feu à 18h30, ça sert à rien. Ils sont déjà tous couchés. Du coup, on a fait un couvre-feu à 16h30.
Ah oui.
Mais là, c'est pareil, il n'y a personne dans les rues. Ils regardent tous affaires conclues.
Ah.
Voilà. Du coup, on l'a mis à 14h30, mais à 14h30, ils font la sieste.
Ah oui.
Alors, du coup, on l'a mis à midi moins le quart, mais ils mangent déjà. Alors du coup on s'est dit on va être radical, on va le mettre à 7h du matin. Mais ça sert à rien, ils regardent tout ça pour une matin. Je suis corporate. Du coup je vous cache pas qu'on a un peu abandonné l'idée.
Vous avez abandonné l'idée. Bon, comme à Marseille, vous avez la DZ Mafia à Nice, hein.
Oui, enfin, c'est une... Comment vous dire ? C'est une filiale de la DZ de Mafia, voilà. Mais qui trafique beaucoup dans nos quartiers. Les bancs publics, on le voit, sont pris d'assaut par des hordes d'octogénaires qui s'échangent sous le manteau, vous savez quoi ? Des programmes télé.
Ah oui.
C'est la télé Z Mafia.
Voilà, et bien, bon courage, monsieur. Laurent Nunez, restez avec nous d'ailleurs. Tiens, rebonjour, monsieur le ministre.
Ouaf, ouaf.
Monsieur Nunez.
Bonjour madame, écoutez, oui. Pour être rassuré, vous le savez, la population aime qu'on mette des moyens et des effectifs en place.
Oui.
Et du coup, moi, je fais simple, hein, je dis ce que les gens ont envie d'entendre. Je ne parle que d'effectifs et de moyens.
Ah, voilà.
Ça mange pas de pain, hein. Personne ne me reproche pas, on me reprochera de parler d'effectifs et de moyens. Comme ça, je ne me mouille pas, hein. C'est ceinture, bretelles et parachute avec moi. Donc je ne sais pas quelle était votre question, mais ma réponse de toute façon est toujours la même depuis que je suis ministre de l'Intérieur, c'est que nous allons rajouter des effectifs, madame de Malherbe, des effectifs pour nos dispositifs et mettre tous les moyens. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va rajouter des effectifs moyens,
ah non.
Ça veut dire qu'on se donne les moyens, que les renforts soient effectifs dans notre beau dispositif avec beaucoup de moyens effectifs.
Merci beaucoup Laurent Nunez. Tout de suite on retrouve Marc-Olivier Fogiel pour les
titres. Oui, salut Apo. Il est parti Laurent Nunez,
ouais.
Oh quel dommage, je voulais proposer mes services, parce que moi, les interrogatoires, j'adore ça. Ben oui, avec moi, c'est pas des interviews, c'est beaucoup mieux, c'est des interrogatoires. Mais moi, je les lâche pas, tant qu'ils ont pas craché le morceau. Ben oui, il y a que comme ça que tu peux avoir un scoop. Sinon, comment tu veux faire pour faire de l'audience? Allez, c'est parti pour les titres. Pardon, le titre, c'est juste pour faire plaisir aux mises intérieures. Avec l'affaire Émile Louis. Et oui, on démarre avec un sujet léger, un sujet feel good. 50 ans après les premières disparitions de Lyon, les fouilles ont repris. Pour tenter de retrouver quoi ? Des dépouilles. Non mais franchement Apolline, 50 ans après, même la chouette d'or, elle a été retrouvée plus rapidement. Non, si on veut vraiment trouver, faut arrêter avec les gendarmes, ça marche pas. Faut prendre des gens motivés, des candidats de la carte au trésor, voilà.
Allez,
à toi Apolline.
Merci Marco. Le Vatican a annoncé pour septembre la venue du pape Léon XIV en France. Emmanuel Macron, bonjour. Vous avez prévu un programme, j'imagine, monsieur le président.
Oui, mais écoutez, c'est assez oui, alors l'orgue, c'était pour le pape après, je crois. Sans courir au niveau de la régie, c'est pas grave. Oui, c'est les stagiaires, que voulez-vous. Oui, alors c'est assez délicat parce que le pape est américain. Oui, on peut arrêter la musique, merci. Oui, le pape est américain. En général, les Américains, quand ils viennent à Paris, vous savez, c'est Moulin Rouge et shopping sur les Champs-Élysées. Mais là, on peut arrêter les orgues. Oui, enfin, pour tout vous dire, voilà, je vais pas amener le pape s'acheter une soutane chez Hermès et faire le tour des clubs de striptease de la capitale.
Non, c'est
plutôt Donald Trump. Non, bref, on va faire simple. Le pape, je vais lui montrer Notre-Dame toute jolie, toute rénovée. Hein, grâce à qui ? Grâce à Bibi.
Évidemment. Voilà,
et surtout, je lui demanderai de mettre un cierge pour éviter qu'elle crame une deuxième fois.
Ah, voilà. Ce serait bien. Merci, monsieur le président. Le pape Léon XIV, justement, est avec nous. Tiens, je pense que c'est le moment de mettre l'orgue. Venu en France ! C'est une grande nouvelle.
T'es en France? Oui, test micro, ça marche? Oui, c'est bon. Non, mais ma venue en France, vous emballez pas non plus. On fait juste les orgues dans l'intro. Après, ça diminue.
D'accord. Hein?
Tu vas pas me casser les oreilles avec le DJ, tu arrêtes tout ça. Oui, ma tournée en France n'est pas encore signée. Parce que j'ai vu le prix de l'essence chez vous. Rome-Paris, en papa mobile, avec 15 voitures de bagnole devant, 15 bagnoles derrière, vous savez ce que ça coûte? Surtout que moi, je voulais remplir le formulaire pour bénéficier d'un chèque carburant.
Ah oui.
Mais parce que je pensais que c'était simple, juste mettre une croix, tu vois. Ça, je fais ça toute la journée, c'est mon job. Mais là, non, j'ai les formulaires, c'est une usine à gaz.
Ah bah, vive la France.
Les conditions à remplir sont tellement longues, mais tu as plus vite fait de lire la Bible. Oui. Puis de toute façon, j'ai compris que mon secteur d'activité n'était pas éligible. Pourtant, je suis quand même un gros rouleur.
Oui.
Hein? Non, si je viens à Paris, c'est juste par pitié pour Macron.
Ah bon, vous avez pitié d'Emmanuel Macron?
Oui, il m'a supplié de faire remonter sa cote de popularité. Sauf que moi, dans ma boîte, on n'a jamais fait ça. Guérir un lépreux, oui. Faire marcher un tétraplégique, oui. Ouvrir la mer en deux, oui, d'accord. Ça, ce genre de miracle, oui, on sait faire. Mais faire remonter la cote à Macron, mais même faire en sorte que les employés viennent de chez nous, ils arrêtent de tripoter les gamins au catéchisme, c'est plus facile que faire remonter la côte à Macron.
Oui, vous avez demandé autre chose.
Oui, m'a aussi demandé de convaincre son épouse Brigitte de lui accorder son pardon après qu'elle l'ait grillé en train d'envoyer un SMS à une actrice iranienne. Mais là aussi, c'est compliqué, hein? Moi, je vois. J'ai eu le même problème avec mon épouse parce que j'avais vaguement échangé quelques textos avec Madonna qui était un peu olé olé. Mais là, 5 ans après, elle continue à faire la gueule. J'en parlais avec le cardinal Marshall. Tous les soirs, je suis comme lui. Je dors à l'auberge du cul tourné. Oh.
Merci frère Nicolas. Dans un instant, les Gigi, les grandes gueules, on va s'intéresser au film L'Abandon. Sur Samuel Paty, est-ce qu'il doit être projeté dans les écoles? Est-ce que ça pourrait être un bon outil pédagogique? 32-16 pour en discuter avec les GG.